Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, on va vous parler du Xbox Partner Preview. On a aussi Nintendo qui a déjà gagné sa bataille contre l'émulateur Yuzu et Toys for Bob qui prend son indépendance, ainsi qu'évidemment Final Fantasy VII Rebirth. C'est tout de suite dans le rendez-vous de jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 337. Et nous sommes en mars 2024. Bienvenue à tous et à toutes. Et bienvenue à Jika qui se joint à moi pour la deuxième semaine consécutive.
C'est incroyable. C'est vrai que là, ça fait deux podcasts en tête-à-tête, avec les petites chandelles et tout. C'est pas mal. Je propose qu'on parle comme ça avec une voix sensuelle pendant une heure et demie, deux heures, je sais pas. Mais bon, écoute, là, faut en profiter parce qu'après, je reviens pas avant au moins deux semaines. Faut pas trop.
Ouais, c'est trop, ça. Il faut faire le.
Point trop d'en faux.
Tirer le meilleur parti de cette opportunité. Nous allons parler avec des voix suaves. Il faut que tu baisses d'une octave, en fait. Bonjour, okay. J'y tiens.
Ok, bah. Pourtant, on a quand même des voix assez graves de base, nous deux.
Oui,
donc,
tous les deux.
Ça va être difficile de descendre.
Si nous allons encore plus bas. Encore plus bas.
C'est impressionnant.
On va pas continuer c'est dans cette direction. On va parler donc de sujets intéressants. Je voudrais tout de même remercier Frédéric André qui a rejoint les Patriotes cette semaine. Merci beaucoup Frédéric, merci à toi et merci au producteur Lancelot Davizard. On était en train de discuter juste avant de lancer l'enregistrement avec des gens de la chatroom puisqu'on est évidemment sur Twitch comme tous les jeudis midi. Et on discutait notamment avec Bigel. Je suis toujours pas sûr de ton pseudo, qui nous dit qu'il a rejoint le Patreon après 10 ans d'écoute. Un grand, grand merci à toi aussi. Et un petit bonjour à Momopai Studio, qui nous disait bonjour là, dont le jeu Captain Velvet Meteor est disponible depuis peu de temps. C'est un jeu de stratégie qui est notamment sur Switch et pas que. Donc, merci à vous tous. Merci d'être là dans la chatroom. Merci de nous écouter en podcast. Et puis, avant de se lancer, je précise que je vais arrêter de vous emmerder avec mes problèmes. Parce que, bon, là, ça fait un mois et je ne vais pas répéter la même chose toutes les semaines. Je fais les émissions comme je peux. Je vois au jour le jour. La situation reste complicatotron, mais on gère. Et je vous dirai quand ça ira mieux. Là, ça reste un petit peu compliqué. On a tout de même le retour de la newsletter, normalement. On verra ce qu'on peut faire, quelle semaine. Est-ce que parfois, il n'y aura pas de newsletter, parfois, il n'y aura pas d'épisode, je ne sais pas. Mais par contre, cette semaine, j'ai plein de liens cool dans la section Patriote en particulier. Pas que, mais dans la section Patriote. Donc, si vous êtes Patriote, vous recevez la newsletter. Il y a plein de liens intéressants que j'ai accumulés ces deux, trois dernières semaines parce que la première semaine où il n'y avait pas de newsletter, c'était parce que je prenais un petit peu de temps off. La deuxième semaine, il y a eu des problèmes techniques que je n'avais pas le temps de cerveau disponible pour gérer. Mais là, c'est bon. Il y a plein de liens cool, du coup, des trucs que j'ai trouvé intéressants. Et notamment, une interview avec le CEO of Crunchyroll, qui est... je ne m'en suis pas aperçu, mais Crunchyroll est vraiment devenu le service de streaming absolu maintenant. Ils ont tout consolidé. Il y avait Wakanim, il y avait... comment il s'appelle l'autre ? Funimation. Tous les contenus sont maintenant dans Crunchyroll. Il y a quasiment tout. Du coup, je me suis pris un abo Crunchyroll et je regarde quelques animés. Devine par lequel j'ai commencé, Jika. Toi, t'es un spécialiste en animé.
Jujutsu Kaisen.
Là, et là, voilà, exactement.
Ah, si, mais j'étais sûr de mal le prononcer, surtout. T'as commencé par
Jujutsu Kaisen. Ouais, j'ai commencé par Jujutsu Kaisen, c'est les grands classiques. Écoute, j'avais déjà lu un petit peu en manga, j'en ai lu quelques-uns. Captain Velvet Meteor est aussi dispo sur Crunchyroll dans leur abo méga fan où il y a des... c'est marrant ça,
parce qu'en sponso, hein. C'est sponso par un petit studio indé.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais ils ont en fait, si tu payes le prix, genre le deuxième tier, Tu as aussi accès à certains jeux vidéo, évidemment, dont Captain Velvet Meteor, c'est fou. Et oui, donc j'ai pris l'abo qui est, entre parenthèses, il était à 10€ en Finlande. J'ai voulu le prendre, mais j'avais déjà pris un abo il y a très longtemps et ma carte avait échu. Donc ça ne s'est pas activé. Et je me connecte depuis mon téléphone et je vois que c'est genre à 6€ au lieu de 10. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est moins cher en France qu'en Finlande. Je disais aux gens que la vie est chère en Finlande. Bah, voilà un exemple. Et du coup, bah, j'ai sorti mon VPN de préféré. Je me suis connecté en France et je me suis pris un abonnement, du coup, beaucoup moins cher. Et j'ai donc commencé à regarder Jujutsu Kaisen. J'ai lu plusieurs mangas de différents types. Enfin, c'est vraiment Jujutsu Kaisen, c'est le shonen hyper classique, hyper, pas le plus inventif. Mais il a beaucoup, il est hyper populaire et il y a tellement de gens qui disent que la saison 2 est incroyable au niveau animation, au niveau machin. Je me suis dit, bon, bah, je vais commencer avec ça et puis je prendrai des trucs un petit peu plus confidentiels ou un petit peu plus originaux ensuite. Et on m'a conseillé notamment sur le Discord plein de choses. Je sais que je veux tester Free Rain. Enfin, il y a plein de choses qu'on m'a recommandé sur le Discord. On a un channel pour ça. Et donc, voilà, j'ai tellement envie de Japon, Jika. Tellement envie de Japon. Entre Final Fantasy VII, Shogun, ouais, non, c'est vrai. Que j'ai commencé à regarder aussi, qui est très bien.
La fameuse série Shogun, ouais.
Ouais. Blue Eye Samurai, Jujutsu Kaisen, tous ces trucs-là. Je suis, enfin, 13 Sentinels auquel j'avais joué, Persona, j'allais dire Patreon 5, Persona 5, que j'ai recommencé un petit peu. Et le Japon me manque tellement.
Ouais, j'avoue. Moi, j'y pense, c'est vrai qu'en plus, là, j'ai mon fils qui a, enfin, qui a 7 ans, qui a bientôt 8 ans, qui quasiment tous les deux jours me dit « Papa, quand est-ce qu'on va au Japon ?»
Ah oui.
Je lui ai dit « Franchement, j'espère qu'on va y aller un jour, et puis dans pas si longtemps, mais on verra. » Mais oui, c'est vrai que moi j'ai... De toute façon, la dernière fois que je suis allé au Japon, c'était en 2015. Ah, ça fait 10 ans presque, waouh. Et à chaque fois que tu rentres du Japon, t'as envie d'y retourner, et puis t'y penses régulièrement, tu vois.
Mais en plus, tu sais que pour moi, le Japon, c'est un truc vraiment particulier. Hein. Je suis... Bon, j'ai vécu au Japon. J'y ai passé beaucoup de temps, ma lune de miel. On a vécu 3 mois au Japon avec ma femme en 2016. Et je pense que la plupart des gens savent, mais on était à l'aéroport pour aller au Japon en février 2020. Dans l'aéroport, on reçoit un mail du boulot de ma femme qui dit bon, alors. Compliqué, le Japon, vous devez vous isoler si vous revenez, parce que Japon, Covid, tout ça. Et du coup, on a décidé, après avoir passé la sécurité, de ne pas y aller. Parce qu'on avait notre fils qui était à la maison, et on avait peur, en fait, d'être coincé là-bas. On ne savait pas, à l'époque. Et,
tellement dur à prendre, quand en plus, tu étais sur place, tu as passé la sécurité... Et faire demi-tour, le crève-cœur que ça doit être, quoi.
Tu m'étonnes.
Je peux pas imaginer, quoi.
Et en plus, bon, enfin, c'est un voyage, ça va, il n'y a pas mort d'homme, mais on était, pour elle et pour moi aussi, le Japon, c'est un truc qui fait partie de moi maintenant, tu vois. J'ai vécu au Japon, j'ai appris le japonais, j'ai passé des je sais pas, peut-être 10 ans de ma vie en très proche, vraiment, à consacrer au Japon, quoi. Je dirais 10 ans de ma vie à consacrer au Japon. Et donc, le fait de ne pas y être allé, de ne pas avoir pu y aller maintenant, bah c'est compliqué avec les deux enfants. Je ne sais pas si je pourrais y aller un jour. Et Jérôme qui me dit, il y a 2 jours, « Ah, bah, je vais passer un mois au Japon en juin. »
Jérôme Kainborg.
Ouais. Il va y aller une visite pour un truc pour sa chaîne. Et il y reste un peu plus longtemps. Vous comprenez comme la vie est dure, hein. On ne peut pas aller au Japon. C'est pas honteux, ça? Bon. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup de choses japonaises, dont Final Fantasy VII Rebirth, dont on vous parlera dans un instant. Mais pour le moment, c'est les news importantes à retenir. Ah, là, c'est pas assez fort, je trouve. Hop, on remonte un peu le volume. Et on peut vous parler d'un truc dont je pensais que... Et oui, si on va à Kyoto, on se fera signe, oui. On était à Kyoto, moment gloire. On était à Kyoto avec ma femme pour les 3 mois en 2016. Et on est donc dans les petites ruelles de Kyoto, au marché couvert. Et il y a 2 personnes qui nous arrêtent. Ils disent « Oh Patrick, oh, bah, salut, on est en voyage à Kyoto, on écoute tes podcasts, c'est super cool !» Et là, je me dis « Ah, je suis connu internationalement, ma chérie. T'inquiète pas, c'est normal. Ouais. Je dis, non, non, arrêtez les photos, c'est bon, c'est bon. Non, c'est deux auditeurs, c'était très sympa. On a passé un petit moment ensemble. Bref, donc oui, moi, je suis très heureux de voir les gens quand on est, quand on est en voyage là-bas, c'est très cool. Et même ailleurs aussi. Bref, qu'est-ce que je disais ? Xbox et... Xbox Partner
tu Preview. Tu commences à la japonaise, ouais, on dirait.
Ouais, c'est ça. Xbox Partner Preview. Voilà. C'est le japonais qui parle un tout petit peu anglais, ça. Tu sais quoi ? C'était pas mal, la Xbox Partner Preview. Moi, je m'attendais à un truc... Ouais, je me disais, oh, c'est bon, Xbox, ils ont juste partenaire, c'est même pas un vrai showcase, machin.
Ce qui est bien, c'était que c'était... ça allait à l'essentiel, tu vois, pas de blabla. Bam, du trailer, des présentations, une voix off qui dure 10 secondes entre chaque. Là-haut, c'est clair que c'est un format qui est efficace, tu vois. T'es venu là pour voir des jeux, t'en as eu, c'est sûr. Ouais. Après, moi, il y a vraiment... Enfin, les jeux auxquels j'ai envie de jouer, là, il n'y en a pas eu tant que ça, tu vois. Mais bon, après, parce qu'il y en a aussi, je ne suis pas forcément la cible, tu vois. Bon, bref, je te laisse dérouler, mais on en parlera après, quoi.
Je précise, on parlera sans spoiler de Final Fantasy VII, évidemment.
Oui, évidemment, de toute façon, moi, je ne peux pas... Je suis loin de la fin, donc je n'ai pas grand-chose à spoiler pour le moment.
Je suis au tout début. oui, bah, alors, justement, il y avait des jeux qui étaient intéressants, j'ai trouvé. Alors, si on sait à quoi s'attendre hein, pour ce showcase, enfin, ce partner preview... on sait qu'il n'y aura pas forcément des reveals de fou, mais il y avait quand même des jeux intéressants ou des jeux sur lesquels on peut avoir des trucs à dire. Moi, je retiens par exemple Unknown 9 Awakening, qui est un jeu de Bandai Namco. Moi, ça m'a un peu fait penser à Assassin's Creed. C'est un peu Assassin's Creed Bandai Namco.
Montré, ouais,
ouais tu trouves ? Toi aussi ?
Ouais, moi, je pensais plus à Forspoken. Tu dis Forspoken.
Alors, exactement. Exactement. Alors, en fait, c'est ce que j'ai mis dans les notes. J'ai mis Assassin's Creed Bandai Namco ou Forspoken Like. J'espère pour eux que ça sera plus Assassin's Creed que Forspoken. Mais j'ai l'impression qu'il y a du parcours, il y a une histoire. Enfin, bon, c'est un jeu dont je ne sais pas trop quoi penser. Je ne sais pas si c'est Bandai Namco qui essaye de faire de l'occidental. Mais le système de combat a l'air intéressant. On peut se transférer d'un endroit à l'autre. Il y a une sorte de bullet time. Tu te transfères dans une autre personne et puis en même temps t'explores des ruines qui ont l'air un petit peu moyen-oriental. Enfin, je sais pas. Ça s'appelle Awakening Unknown 9. C'était un jeu dont on n'avait pas entendu parler. Il a l'air d'y avoir du parcours dans une ville moyen-orientale. Bon, why not? Why not?
Ouais, moi ça m'a semblé assez classique finalement. Enfin, c'est un peu cynique ce que je dis, mais j'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu 10 fois, tu vois. Ouais. Bon, après, je demande si c'est solide au niveau gameplay, pourquoi pas. Mais c'est malheureusement un peu ce que j'ai ressenti sur pas mal de jeux dans ce showcase, notamment les jeux japonais. J'avoue que les jeux japonais m'ont vraiment. Même le jeu de Capcom à la fin, là.
Ah oui ?
Le jeu de Capcom à la fin, pour moi, c'est une sorte de. Déjà visuellement, j'ai trouvé ça affreux. Je suis désolé. Hein. Espèce de dégueulis de couleurs dans tous les sens. Enfin, j'ai pas été sensible du tout à la DA pour le coup.
Alors on va quitter Awakening et passer sur Kunitsugami Path of the Goddess, qui est un jeu de Capcom effectivement, avec une esthétique méga Japon traditionnel, avec des yokai et un monde médiéval. Pour le coup, fantastique, mais japonais, avec des tori, de la corruption. Enfin, tu vois, moi, je suis dans Jujutsu Kaisen, je peux te dire que c'est exactement.
En fait, tu sais quoi, pour moi, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça me fait penser à Okami, mais Okami avec des couleurs qui pètent, quoi.
Ouais.
C'est un peu le style, quoi.
Alors, c'est pas aussi, aussi animé. Mais l'esthétique, c'est vraiment les malédictions et les bénédictions et la religion shinto. Là, on n'est pas, enfin, sans doute mélangé avec du bouddhisme, mais on a l'air vraiment d'être dans le folklore shinto. Et donc, c'est un jeu qui a une partie le jour, on prépare sa base et ses défenses, et c'est presque, ça a l'air d'être presque un petit peu des éléments de jeu de survie. Et la nuit, c'est là que les méchants arrivent. Et donc, on passe en mode, genre, j'ai l'impression, enfin, combat certainement, mais presque un petit peu tower defense. Et c'est là que, donc, on doit utiliser les villageois qu'on a réunis, les défenses, les machins. Et c'est effectivement méga coloré. Et un design, je peux comprendre qu'il soit clivant parce que c'est assez fort, quoi. Ce qui est plutôt une bonne chose, je pense.
Là, au moins, on pourra pas dire qu'il n'y a pas de DA. Il y a un parti pris, il y a un truc. Moi, je t'avoue que ça me laisse vraiment au minimum froid. Au pire, ça me repousse un peu. Mmh. Et je sais pas, je trouve que c'est assez bordélique. J'ai pas été convaincu.
J'ai l'impression que c'est un jeu qui est plus ambitieux que ses moyens. C'est un double A, ouais. Mais on a des airs de triple A. Je me demande si c'est pas un projet passion d'une personne chez Capcom qui a été validé pour le financement, et ils lui ont dit bon, tu fais du mieux que tu peux avec telle somme, et il a essoré le budget de manière à en faire quelque chose d'incroyable. Mais je me demande ce que ça donnera au niveau du jeu lui-même quand il arrivera. C'est 2024, je crois, on n'a pas de date précise. Mais je trouve qu'effectivement, l'esthétique, le design sont, enfin, laissent pas du tout indifférent. Et je préfère ça, effectivement, quand on parle de Awakening tout à l'heure, auquel tu as l'impression d'avoir joué 12 fois. Bon, bah là, au moins, c'est ouais, un truc, voilà, une proposition forte, quoi.
C'est sûr. Bah, tu sais quoi, putain, et puis là, tu vois, en parlant, je me rends compte que peut-être je suis un peu dur parce que j'avais le souvenir que Okami, alors on le compare, je le compare un peu à Okami, mais parce qu'Okami m'avait fait le même effet la première fois que je l'ai vu il y a longtemps, hein, je me rappelle, sur PS2. Mmh. Et puis finalement, en y jouant, j'ai trouvé ça super. Donc peut-être que je vais changer d'avis.
Possible. Bah, tu sais, les choses fortes parfois sont choquantes au premier abord, et puis quand on s'y habitue, ça, on peut les apprécier. Mais on verra. On verra ce que ça donne. On a encore le temps de le voir arriver. Il y a deux autres jeux que j'ai notés, The Alters, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est un jeu qui a été présenté, je pense, trois fois déjà dans différentes présentations vidéo. Et c'est un jeu où le principe est intéressant déjà à la base, c'est-à-dire qu'on est un astronaute qui est isolé sur une planète hostile. Et on est dans une base qu'on ne peut pas faire tourner tout seul, et donc on réveille, on génère des versions alternatives de nous pour nous aider. Ça, c'est le principe de base qui avait déjà été détaillé dans les présentations précédentes. Là, ils ont donné plus de détails sur le gameplay. Il y a vraiment une question de gestion, en fait. On va aller récupérer un matériau spécial qui s'appelle, je sais plus, le duplicatum ou le choisatum, un truc du genre, qui te permet, grâce à l'ordinateur quantique de ta base, de générer donc une version alternative de toi, mais pas juste genre quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui a fait des choix différents dans sa vie avant d'arriver sur cette station spatiale, et qui donc a eu un parcours de vie différent et des capacités de gameplay, on imagine, différentes. Donc il va être capable d'être, j'en sais rien moi, un ingénieur ou un agronome ou ce genre de choses pour faire tourner la base, mais qui aussi aura des idées, une philosophie, des objectifs, des besoins, des contraintes différentes de par l'évolution de sa vie. Et donc, ils ont insisté sur le fait que, appuyé sur le fait que, au niveau de la narration sans doute et du gameplay en partie, on aura ces moments à créer, à faire, à choisir sur vraiment par exemple, est-ce que tu, j'en sais rien, je dis au hasard, mais est-ce que tu abandonnes ta famille et tes enfants, est-ce que tu choisis de continuer tes études ou de devenir chanteur de rock, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est le parcours de vie. Et c'est plutôt, ça peut amener une surcouche narrative et des relations, bien sûr, entre les différentes versions de l'astronaute intéressantes. Donc, voilà pour ce qu'on a appris en plus sur The Alters. Je crois qu'on n'a pas de date non plus, je ne veux pas dire de bêtises, sans doute 2024. Ouais, mais...
Ils ont annoncé qu'ils sortiraient de Game Pass directement. C'est la première fois qu'on voyait du gameplay. Hein, et le jeu avait déjà été annoncé et tout, mais on voyait vraiment du gameplay. Et ouais, c'est un jeu que j'avais sous le radar parce que j'avais dans l'œil, enfin bref. Je sais plus l'expression, dans mon radar, ouais, dans mon radar,
sous l'œil du radar, sous le radar,
sous l'œil du radar. Et parce que notamment Kevin, quand j'avais été à la dernière Gamescom, j'ai mon collègue Kevin qui l'avait vu et qui m'avait dit plus grand bien, qui était vachement surpris. Et c'est vrai que de voir du gameplay, et alors c'est un concept qui est hyper intéressant, hyper ambitieux, mais qui est aussi très casse-gueule, ça peut ne pas fonctionner. Ah oui. Après, derrière, c'est le studio qui a fait Frostpunk, qui a fait This War of Mine, donc ils ont, comment dire, ils savent gérer les systèmes, ils savent gérer aussi le côté,
alors c'est eux qui développent
la narration,
ou ils publie.
Je crois. Alors c'est 11bit Studio, c'est 11bit qui publie, et je crois. Alors peut-être que je me trompe, mais je suis presque sûr que c'est le même studio. Hein.
D'accord.
Il faut confirmer.
Il y a que le logo 11bit, donc ça doit être ça. Tu dois avoir raison. Ouais.
Elle est, voilà. Et donc, du coup, ils savent aussi mélanger les systèmes de gestion, les systèmes de presque city building avec de la narration. Donc, c'est pour ça que je suis assez... je me dis que s'il y a bien un studio qui peut réussir à faire marcher un concept comme ça, c'est eux. Donc, et puis, voilà, je trouve que... Et l'ambiance a l'air super intéressante. Enfin, moi, pour le coup, ça me plaît beaucoup.
Eh bien, écoute, on continuera à suivre ça. On me dit dans la chatroom, la true last good ending du jeu, c'est de réussir à devenir Patrick Béja. Est-ce vraiment une good ending? Je vous en laisse juge. Le dernier jeu que je voulais évoquer, je te laisserai parler d'autres jeux si tu le souhaites, c'est Creatures of Ava, également édité par 11bit, qui est... C'est un peu rigolo parce que c'est l'anti-Palworld. C'est un monde dans lequel on va collectionner des créatures, ou peut-être pas les collectionner, mais aller les... En gros, c'est un petit peu, je crois que c'est Polygon qui titrait comme ça, c'est Palworld, sauf qu'à la place des flingues, on a des hugs, tu sais. C'est un peu cette ambiance, c'est très beau, c'est super coloré, c'est un petit peu très saturé même. Mais c'est marrant de voir le nombre de jeux, ambiance, genre, c'est beau, c'est super. Dérivés, inspirés de Pokémon... parce qu'il y a la génération qui a grandi avec Pokémon, qui se met à faire des jeux maintenant. Parfois, ça n'a rien à voir avec Pokémon. Là, ça n'a pas l'air d'être des collections et des combats. Et de la même manière, Palworld, c'est pas ça non plus.
Non, ouais. Mais, on prend des photos. Ça va être un jeu assez chill, quoi.
Ouais, ouais. Ça me fait penser à. Et je dis pas ça uniquement pour Palworld et l'autre. Tu te souviens, j'arrive plus à retrouver son nom. Il y a un jeu où tu voles et tu collectionnes des sortes de poissons volants. Qui a également une petite vibe Pokémon. Je me souviens plus, c'est un studio qui avait fait un truc. Chatroom, si vous pouvez m'aider. Non, c'est pas japonais, c'est un jeu indé.
Ah ouais.
Et leur premier jeu avait assez bien marché, et ce deuxième jeu n'a pas grand chose à voir. Non, c'est pas Temtem. Temtem, c'est vraiment un Pokémon-like. Je sais plus. Bref, enfin, il y en a plusieurs, quoi. Il y en a 3-4 des jeux comme ça dont tu sens l'influence Pokémon, mais qui en font autre chose, quoi. Il y a d'autres jeux qui t'ont marqué dans cette présentation ? Non, c'est pas God of War. C'est pas God of War.
Franchement, non, pas trop. Il y a, alors, je sais pas si je vois pas dans ta liste, mais il y avait un jeu qui était juste un trailer, mais c'est une sorte de truc un peu ambiance néo-noir avec une femme, une fille en.
Oui, en carrément principale. Néo-noir. Le truc avec des cartes, là.
Un jeu d'infiltration, apparemment, très. Il parle d'immersive cible. Enfin, moi, c'est mon style de jeu.
Sleight of Hand.
Je me souviens. Sleight of Hand, voilà. Alors franchement, on a juste eu un petit trailer assez court, mais la proposition de base, moi, me plaît, donc on va dire que je suis quand même curieux d'en voir plus. Voilà, à défaut de me dire, je vais absolument y jouer, je suis assez curieux d'en voir plus.
Ouais.
Franchement, après, le reste, pour moi, c'était moins... Enfin, voilà, on a eu la date de sortie de FF14 sur Xbox, on a eu des trucs comme ça, mais...
Alors...
Moins... Et par contre, je suis assez surpris de la
21 mars,
de
FF14 sur Xbox.
Jeux japonais.
Faut que je le dise, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts par certains co-animateurs.
Kassim.
21 Allez. Mars, et la version starter sera gratuite dans le Game Pass pour une durée limitée, j'ai l'impression, genre 15 jours, un truc du genre. Mais en tout cas, il arrive le 21 mars.
Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que je suis quand même surpris de la proportion de jeux japonais quand même. Il y en avait pas mal. Pour un showcase Xbox, il y avait Capcom, il y avait Square Enix, il y avait Namco. Bon, on a une Namco, donc quand même parmi les plus gros éditeurs du Japon. Pour un show Xbox, c'était pas plutôt surprenant.
Il y avait aussi Zei, Tales of Kanzera, que j'ai trouvé. On l'avait déjà vu, lui, celui-là aussi. C'est un jeu. Ça a l'air d'être un petit peu de l'afro-futurisme. Mais surtout, ça m'a fait tellement penser à Prince of Persia de Lost Crown.
Bah,
ouais. Oh là là, mais c'est vraiment.
Ça, et c'est à la fois bien, parce que bah, c'est un Metroidvania, et puis effectivement, ça s'inspire plus de l'impression de folklore africain, ou en tout cas d'une certaine fantasy,
originale
africaine, ce qui est bien, parce que c'est assez rare, tu vois. C'est vrai que tu as l'impression de voir Prince of Persia, quoi. Et le truc, c'est qu'il va sortir après Pop, après. Qui a un excellent Metroidvania, on en a déjà parlé. Donc il a intérêt à... Ouais, en termes de... Disons qu'il y a eu de tellement bons jeux dans ce style depuis 4-5 ans que la barre est super haute. Aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter de sortir un Metroidvania juste OK, tu vois. Donc bon, on va voir.
Oui, surtout que Prince of Persia, malgré toutes ses reviews incroyablement bonnes, n'a pas du tout atteint les niveaux de vente espérés. On en reparlera peut-être dans une seconde, mais... Mais c'est dingue, je revois le trailer de Tales of Kanzera, c'est Zao, pardon, pas Zei, de Tales of Kanzera, mais c'est Prince of Persia, quoi. Tu le regardes d'un petit coup d'œil comme ça, sans y faire trop attention, tu dis, ah bah oui, je connais, c'est The Lost Crown.
C'est ça, et ça fait penser un peu à Ori aussi, dans le, je sais pas, dans les couleurs, vrai, dans les animations, il y a un petit côté Ori. Donc bon, c'est quand même deux références du genre. C'est ça. On va voir.
Il arrive le 23 avril. Je voulais aussi mentionner Persona 3 Reload, le DLC. Beaucoup de gens disaient « Ah, oh, c'est dommage, ils ont sorti le remake de Persona 3, mais ils n'ont pas inclus tous les contenus qui pourraient être, tu vois, qui en feraient la version ultime. Il n'y a pas les versions de telle et telle version, enfin, les contenus de telle et telle version. » Eh bien, il y a une extension. Et je crois qu'elle rajoute le truc que tout le monde voulait. Je suis pas 100% certain. Il faudrait qu'un spécialiste de Persona 5 me le confirme. Mais donc, il y a une extension avec trois vagues. Les premières, c'est des trucs cosmétiques, des BGM, tout ça. Mais la troisième vague qui arrive en septembre, ça sera épisode Aegis. C'est du vrai contenu supplémentaire dans le jeu. Donc, voilà. Bref, il y aurait d'autres choses dont on pourrait parler. Mais on va avancer un petit peu avec la deuxième news que je retiens cette semaine. C'est la victoire, déjà, de Nintendo sur les développeurs de l'émulateur Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch. Ces développeurs ont annoncé avoir trouvé un accord avec Nintendo pour mettre fin au procès. Et cet accord inclut évidemment la fin de l'émulateur, la destruction de tout ce qu'ils peuvent détruire pour rendre l'accès à l'émulateur le plus difficile possible. Il y a un message sur le site de Yuzu, désormais yuzuemu.org, un message qui dit « Bonjour à tous, nous avons arrêté Yuzu et nous avons toujours été contre la piraterie. Au départ, nous étions juste passionnés, mais nous nous rendons compte aujourd'hui de la faute, de l'erreur que nous avons fait et du fait que Yuzu et Citra servent uniquement à la piraterie. Ça n'était jamais notre intention. » Donc, enfin, tu vois le truc qui a été revu par les avocats de Nintendo, évidemment. Ils vont aussi payer 2,4 millions de dollars à Nintendo. J'espère, je ne sais pas combien ils sont derrière, si c'est juste le développeur principal ou plusieurs. Ça va prendre un moment de rembourser 2,4 millions. Rappelons-le, hein, les développeurs de Yuzu, ils avaient quand même un Patreon, ils en faisaient la promo, etc. Ils ont vraiment poussé loin. Le truc positif de toute cette histoire, c'est que, étant donné que ça a été réglé par un accord à l'amiable, entre guillemets, qui met fin au procès, ça veut dire qu'il n'y aura pas de jurisprudence que créera le cas. Donc, le statut de l'émulation reste, on va dire, ambigu. Là où ce procès spécifiquement aurait pu faire basculer les choses de manière assez radicale pour l'émulation du côté de l'illégalité. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est ce que disait le YouTuber de Hoglow. Qui fait le... Comment il s'appelle ? Legally ? Je ne sais plus. Il a une chaîne YouTube qui est très cool, dans laquelle, sur les sujets légaux, il fait une heure et demie de discussion sur le détail. C'est à lui qu'a parlé The Verge. Richard Hugg. Et donc, voilà. Ça, c'est la bonne chose. Et au-delà de ça, bon, bah, c'est un petit peu attendu, mais c'est notable que ça soit déjà réglé, cette histoire. Et on imagine que les développeurs ont dû se dire « Oula, on ne veut pas passer notre vie en prison. » Ils ont réglé.
Après, ça ne fait pas jurer. Ça ne fait pas jurisprudence, mais je pense que les prochaines personnes qui vont vouloir se lancer dans l'émulation Switch, bah, ils vont réfléchir à deux fois. Il y a aussi un émulateur 3DS qui a été supprimé aussi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Et puis, parce que je dis ça, c'est que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a encore d'autres émulateurs Switch qui fonctionnent, qui sont encore en activité, qui n'ont pas été, supprimés. Quid de cela, tu vois, parce que soit ils sont plus petits, ils sont passés sous le radar de Nintendo, ce qui m'étonne quand même. Voilà, c'est... Après, on en a parlé la semaine dernière. L'émulation, il y a un truc très communautaire qui se défend et voilà. Mais c'est vrai que là, on touchait à quelque chose d'un peu différent. On touchait à une machine qui est encore commercialement vendue. On touchait à Nintendo, bon, évidemment. Disons que si Nintendo avait attaqué les gens qui ont créé les émulateurs, je sais pas, Nintendo, NES ou quoi, là je pense qu'il y aurait eu, comment dire, il y aurait une vague anti-Nintendo qui serait montée. là, malheureusement, pas malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est compliqué d'avoir des arguments en faveur de Yuzu, tu vois. Alors que de manière très hypocrite, hein, moi, Yuzu, je l'ai utilisé et tout, je l'assume.
Ah oui?
Voilà. Mais, oui, je pensais, oui, ça, j'ai dit, oui, je m'en suis servi, j'avoue. Mais, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que les rares jeux que j'ai pu essayer sur Yuzu, derrière, je les ai achetés sur Switch. Donc, ça va, je suis pardonné. Donc,
you're in the clear.
Parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils avaient dit, oui, il y a un million de copies de Zelda qui ont été téléchargées avant, etc. Mais ça représente quoi comme manque à gagner pour Nintendo? C'est pas forcément un million de ventes en moins, puisqu'on se doute que les gens qui ont piraté Zelda, soit ils n'auraient pas acheté le jeu, soit ils ont acheté le jeu eux-mêmes derrière pour X raisons, tu vois. Donc c'est en soi, c'est un manque à gagner qui est à l'échelle de Nintendo qui est tout petit. Voilà. Mais je comprends aussi qu'ils doivent se dire au bout d'un moment, bon, ça va, il y a quand même un million de personnes qui ont eu notre jeu avant même qu'il soit sorti, c'est aussi ça le problème. On va peut-être faire quelque chose, quoi.
C'est comme tu le dis, l'impact sur le monde du développement risque d'être important parce que Nintendo pose les limites, quoi. Ils disent, écoutez les gars, vous êtes gentils, on ferme les yeux sur les trucs du genre, les émulateurs 3DS, Super Nintendo, etc. Switch, faut pas déconner. Et en plus, quand vous avez une activité qui est alors commerciale, entre guillemets, oui et non, ils avaient un Patreon pour les soutenir, pour soutenir le développement, donc ils ont fait de l'argent avec. C'est plus un petit effort communautaire de préservation du jeu vidéo. Et je pense que, sans pouvoir le dire, Nintendo, c'est le message qu'ils font passer aussi. Le chilling effect est indéniable, mais je pense aussi que le message est clair. On nous précise dans la chatroom que Yuzu continuera d'exister, c'est sûr. Mais comme tous les émulateurs du monde continuent à exister, y compris des émulateurs de machines récentes, mais un petit peu plus dans le dark web, vous voyez, c'est des gens avec des capuches, dans des chambres bien sombres qui développent ce genre de choses. C'est pas au vu et au su de tous avec un compte Patreon. Et puis, surtout, quand on dit il n'y aura pas de jurisprudence. C'est important à comprendre. Je vois que JK a mis son fond de hacker pour bien illustrer le sujet. Très bien. C'est que légalement, véritablement, une décision de justice sur cette question qui s'est posée là avec Yuzu aurait pu avoir des conséquences sur le statut de l'émulation, le statut légal de l'émulation, plus largement que sur Yuzu spécifiquement. Et donc, ça aurait pu changer cette sorte de statu quo un peu flou qui existe légalement au niveau de l'émulation aujourd'hui. Et le fait qu'on n'ait pas été obligé de répondre à cette question spécifiquement, en particulier dans un cas où, a priori, la réponse aurait été très clairement du côté de Nintendo et des ayants droit, c'est peut-être une bonne chose pour l'émulation légalement. Et j'ajoute que si Nintendo a accepté je ne me souviens plus comment on dit le terme anglais quand tu te mets d'accord pour arrêter un procès en dehors des tribunaux. Mais,
settlement. Settlement, exactement.
Donc, si Nintendo a accepté cet accord, je pense que c'est un petit peu aussi pour dire, bon, on n'a pas envie de tuer tous les émulateurs du monde, tu vois, c'est pas notre but, ça change rien, nous on vend nos vieux jeux tout le temps, de toute façon, c'était pas le but. Ils auraient pu dire... Vous savez quoi? L'émulation, ça suffit. On va pousser ce procès jusqu'au bout et on aura une décision. En plus, le cas nous est hyper favorable. On aura une décision qui va casser l'émulation pour toujours. Bon, là, s'ils avaient poussé comme ça, tout le monde leur serait tombé dessus aussi, je pense.
Donc, il l'aurait cassé de manière juridique, mais il l'aurait pas cassé en termes d'efforts communautaires et tout.
C'est un impact.
Oui, mais ce serait dramatique parce que mine de rien, aujourd'hui, l'émulation, c'est aussi un moyen de préservation. Enfin, on le sait qu'il y a 80% des jeux qui sont sortis qui sont plus disponibles, etc. etc. On en avait parlé une fois dans le rendez-vous du jeu. Donc, aujourd'hui, le seul moyen, pas le seul, mais l'un des moyens intéressants et faciles, c'est ça en fait. Même si on est dans une zone grise, on est à la frontière de la légalité, on ne sait pas, mais c'est très important pour la préservation de pouvoir retrouver. C'est pour ça que des sites comme Internet Archive sont hyper importants, parce que même si ils sont dans des zones un peu grises, voilà, c'est important qu'ils soient là, quoi.
Et c'est pour ça, je pense, qu'en fait, personne dans l'industrie ne veut que l'émulation disparaisse complètement. Tu vois, il y a une sorte d'accord un petit peu tacite entre tout le monde. Évidemment, les grosses boîtes ne peuvent pas le dire, les ayants droit ne peuvent pas le dire officiellement, dire « Ah, mais non, on veut que les munitions disparaissent ». Je pense que tout le monde s'accommode de cette situation, que personne ne veut la casser, qu'elle convient à tout le monde. Ouais. Et donc, en gros, ce que dit Nintendo là, ils tapent du poing sur la table, ils disent « Hey, we have a good thing going ». Don't break it, tu vois. C'est, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, il y a un flou juridique, ça permet à ceux qui veulent faire un truc de le faire, ça permet à ceux qui veulent taper du poing sur la table de le faire. Tout le monde est content. Donc, les trucs comme Yuzu, ils y vont, waouh, on fait les clowns sur Twitter, c'est la fête, on sort des jeux avant leur disponibilité officielle. Non, non, ça, faut pas. Bref.
Ouais, c'est clair.
En gros, l'issue là est sans doute la meilleure issue qu'on aurait pu espérer. Alors, pas pour les développeurs de Yuzu, les pauvres, avec les 2,4 millions, mais c'est la meilleure issue pour le monde de l'émulation une fois que le procès avait été intenté. Et je pense que le message est clair et que maintenant, les développeurs d'émulateurs n'iront pas aussi loin que cela. Bon.
Ils avaient qu'à faire une machine moins facile à émuler aussi, Nintendo, ça va, attends.
Ah oui, faites une machine bah, plus... Oui. Une machine plus... Comment
Regarde la PS5, personne, il n'y a pas d'émulateur PS5.
Mais oui, c'est ça, une machine un peu plus puissante,
voilà.
Et ça règle
voilà,
la question.
Voilà, c'est ça. Bah, la Switch 2, peut-être.
Il croit moyen. Toys for Bob, tiens, une bonne nouvelle, j'en fais la troisième news, parce que ça nous permet de reparler un petit peu d'autres sujets aussi. Toys for Bob reprend son indépendance. Vous vous souvenez que Activision Blizzard a licencié pas mal il y a quelques semaines, enfin Xbox d'une manière plus générale, et ils ont licencié notamment chez Activision Blizzard. Toys for Bob appartient à Activision. Et il y avait le spectre de la fermeture du studio qui planait, qui avait même, j'ai l'impression, été annoncé. Et on apprend maintenant que, en fait, Toys for Bob a trouvé un accord avec Microsoft pour redevenir indépendant, tout simplement. Donc, j'imagine que ça ne change pas grand-chose hein, pour Microsoft. Fermer le studio ou les laisser partir et se démerder tout seul, bah, c'est un petit peu la même chose pour eux. Et comme il semblait y avoir une volonté forte des développeurs et du management de Toys for Bob de redevenir indépendant, ça se fait. C'est un studio qui a une très bonne réputation parce que leurs jeux les plus récents, c'est des jeux comme Spyro, la trilogie, et Crash Bandicoot, notamment le 4, qui ont été hyper appréciés des joueurs, qui étaient des... alors, il y a eu la trilogie Crash Bandicoot aussi, mais des remakes et des nouveaux épisodes vraiment fidèles à l'esprit et de grande qualité. Ils avaient fait d'autres choses avant, mais ils étaient un petit peu en train d'être orientés vers, bon, bah, vous allez faire du support pour Call of Duty, quoi, parce qu'ils sont avec Activision. J'exagère, mais à peine. Et donc, le fait qu'ils puissent retrouver leur indépendance et leur créativité est une bonne nouvelle, parce que c'est un studio qui pourrait faire des belles choses. Il y a des choses à dire sur le statut d'indépendant, mais sur ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Hein, tous les deux. C'est plutôt ouais. Une bonne nouvelle.
Il y a des studios chez Gearbox, enfin, tu as peut-être en parlé, mais chez Embracer qui ont. Il y a un studio qui a été revendu là. C'est pas vraiment une ressource indépendance, mais qui a été revendu.
Ouais. Saber Interactive. Putain, j'ai plus le nom. Ouais.
Saber, voilà. C'est même plus qu'un studio, c'est très gros Saber. Hein. Ouais. Et il y a des rumeurs comme quoi Gearbox serait aussi sur le point d'être revendu. Alors, je ne sais pas s'ils se rachètent eux-mêmes, je ne sais pas comment ça va marcher, ou s'ils vont être revendus à un autre groupe. Mais c'est vrai que. C'est forcément une conséquence de toute la vague de licenciements, etc. Et de, je pense, de la peur de certains développeurs et de certains studios. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont les moyens, la possibilité de redevenir indépendants, bah, parce que c'est aussi cette logique de grand groupe, et ça marche dans tous les corps de métier. Hein. Quand tu fais partie d'un très gros groupe et que ce très gros groupe a des difficultés financières, même si toi, en ton studio, tu vas bien, bah, tu payes pour les autres. Donc, moi, j'ai connu ça dans des groupes médias, tu vois, typiquement ce genre de choses. Donc, c'est une logique que tu peux comprendre. Et du coup, redevenir indépendant, alors ça implique aussi d'avoir moins de moyens financiers, sans doute quand ça va bien, de galérer un peu plus, etc. Mais au moins, tu as peut-être une sécurité. Enfin, tu es responsable de ton destin beaucoup plus que si tu fais partie d'un groupe comme Activision, Blizzard, Microsoft, et tu n'as rien demandé, tu te fais virer, quoi.
Il y a un aspect de cette question qui m'intéresse beaucoup, c'est on a l'habitude, je vais mettre mon chapeau un petit peu contrarian, tu sais, où j'aime dire le contraire de ce que disent les gens, on a l'habitude de beaucoup critiquer les investisseurs et les décisions à court terme de la bourse et de la rentabilité et tout ça, et c'est vrai, hein, évidemment, on ne peut pas le nier. Mais on a beaucoup tendance à oublier aussi que le fait de faire partie d'un groupe, enfin d'être une société publique qui est redevable à ses investisseurs, c'est pas une fatalité. C'est un choix d'une société qui, à un moment, pour se développer plus vite, décide de vendre son potentiel futur. C'est ça, hein, le fait d'entrer en bourse, c'est que tu dis, nous, on vaut tant, on vous propose d'acheter l'argent aujourd'hui, d'acheter une part de notre société, une action, pour telle somme, et avec l'espoir que plus tard, on vaudra plus. On vaudra encore plus parce qu'on connaîtra le succès. Donc, c'est un pari sur l'avenir qui fait, parce que vous vendez votre société, qui fait rentrer beaucoup d'argent très vite, d'une manière qui est quasiment impossible, à moins d'avoir des investissements privés ou ce genre de choses. Mais l'entrée en bourse, c'est ça. Et donc, ça fait rentrer beaucoup d'argent très vite pour te développer plus vite. Ça a évidemment des avantages, puisque énormément de sociétés le font. Mais ce n'est pas une obligation. Le fait de se mettre à la merci de la décision des actionnaires qu'on critique tout le temps et dont on dit « Ah, c'est dégueulasse, ils font ceci », bah eux, le but, généralement, des actionnaires, c'est de faire un investissement qui va rapporter plus et qui ils ne regardent pas forcément dans quoi ils investissent. C'est, ils placent de l'argent. C'est le cas, par exemple, des fonds de pension. Aux États-Unis, ça rigole pas, les fonds de pension. Ils sont pas là pour faire le plus beau film de l'histoire ou le plus beau jeu, plus artistique, machin. Non, eux, ils ont un rendement à faire pour les fonds de pension. C'est quoi ? C'est la retraite. C'est la retraite aux États-Unis. Ils investissent, ils ont besoin de garantir à leurs membres, qui sont des personnes qui comptent sur cet argent pour avoir leur retraite, et je pense qu'on connaît peut-être ça bientôt ici aussi, ils ont besoin de l'argent, c'est pas genre pour s'acheter des yachts, même si évidemment il y a des investisseurs qui sont très riches et qui font ça aussi. Mais généralement, ce type d'actionnaire, c'est ça. C'est pas des gens avec des cornes et une queue de démon qui va essayer de faire le pire jeu possible pour le plus d'argent possible. Donc, le fait de rentrer dans ce monde, de mettre le doigt dans cet engrenage, c'est un choix. Ça a des avantages, ça a aussi des désavantages, c'est évident. Il y a, par exemple, Tim Schafer qui parlait de la vente de Double Fine à Microsoft. Il disait, au moins maintenant, alors c'était dans un docu après le rachat, mais il disait, moi maintenant, j'ai plus à me soucier de est-ce que je vais pouvoir payer mes employés à la fin de chaque mois. Parce que j'ai une grosse boîte derrière qui garantit les salaires. Alors peut-être qu'une partie des employés maintenant ont été virés, c'est une autre question. Mais il y a aussi la sécurité financière d'avoir un gros groupe derrière. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Ce que je veux, vraiment, ce sur quoi j'insiste encore une fois, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est un choix du dirigeant de la société de rentrer en bourse à un moment. Il peut tout à fait, ce ou cette dirigeante peut rester complètement indépendant, et croître beaucoup plus lentement en faisant des jeux qui fonctionnent petit à petit. Et on a des exemples de ça. Pas énormément, mais on en a. Celui qui vient à l'esprit immédiatement, c'est Larian, évidemment, avec le succès intercontinental de Baldur's Gate 3 l'année dernière. Mais il n'y a pas que. On peut montrer l'exemple de Steam, par exemple, qui reste encore aujourd'hui une société privée. Personne n'a à dire à Gabe Newell ce qu'il peut faire. Enfin,
Valve, plutôt.
Tant que c'est pas illégal. Oui, pardon, Valve. N'a à dire à Valve ce qu'il a à faire. Je crois que Supergiant, ils sont indépendants aussi, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est possible. Doute, ouais. Évidemment, tu ne vas pas te transformer en Activision en deux ans, ouais. Hein, mais c'est une possibilité. Donc, je voulais insister sur ce point parce qu'on a tendance à systématiquement taper sur les investisseurs, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Personne n'a obligé les gens de Toys for Bob un jour à se transformer, enfin, à vendre leur société, tu vois. C'était un choix qu'ils avaient fait. Maintenant, ils sont revenus en arrière. Et ce n'est pas que du bon. C'est-à-dire que maintenant, la vie du management de Toys for Bob va être très compliquée pour réussir à joindre les deux bouts chaque mois, quoi. Donc, bon.
A priori, ouais. ils sont partis d'ailleurs plutôt en bon terme, puisqu'ils ont déjà signé des deals avec Microsoft.
Alors pas tout à fait, ils ont dit on travaillera peut-être ensemble à l'avenir, tu vois, c'est un moyen de dire on s'en fout.
Voilà, oui, mais... Alors, ils n'ont rien confirmé, et bon, pareil, surtout par rapport à la qualité du jeu, si par exemple ils veulent faire un Crash Bandicoot 5, ce serait étonnant que ce ne soit pas eux qui le fassent. Tu vois, ils ont fait leur preuve sur les remakes, ils ont fait leur preuve sur le 4. Bon, alors encore faut-il que Microsoft et Activision aient envie de développer un nouvel épisode de Crash, que je ne connais pas les chiffres devant du dernier jeu, mais voilà, en tout cas, ils se positionnent comme on est aujourd'hui finalement les rares spécialistes du jeu de plateforme en 3D, entre guillemets un peu à l'ancienne, et bah, si vous avez besoin de notre savoir-faire, vous savez où nous trouver, quoi.
Et pour faire des jeux de commande, ça sera, je pense, aucun problème pour eux. Sans doute pour financer un jeu qu'ils développeraient eux-mêmes, ça sera possible, mais c'est plus compliqué. Et c'est très risqué de réussir à faire quelque chose qui n'a pas la licence, justement, Spyro ou Crash associé, tu vois.
Crash.
Donc, on a vu, par exemple, comment il s'appelle ce truc avec le yo-yo machin, Penny's Big Adventure, par les développeurs de Sonic Mania. Sonic Mania,
ah oui.
Super adoré, excellent jeu, merveilleux, ah oui, Sonic machin. Penny's Big Adventure, il fait plouf. Pas parce que les gens n'aiment pas les jeux, parce que le jeu est moins bon, il n'y a pas la nostalgie Sonic derrière, il n'y a pas le template de Sonic derrière, ça ne fonctionne pas aussi bien. Bon, voilà, ce n'est pas aussi facile que ça. Bon, j'enlève mon chapeau d'avocat du diable.
Tu l'as trop fait la semaine dernière déjà, donc ouais. C'est bon, t'as un quota d'avocat du diable qui est limité.
Ah oui, je peux pas trop. On a eu une discussion d'accord, intéressante ouais. sur le Discord, notamment avec l'ami Paladin Bleu du Discord, qui était allé regarder les chiffres de licenciements économiques spécifiquement en France, parce que vous vous souvenez, j'essaye pour tant bien que mal avoir du contexte et des choses auxquelles comparer, de trouver le pourcentage de personnes qui ont été licenciées en 2023 par rapport, dans l'industrie du jeu vidéo dans le monde, par rapport au nombre de personnes qui ont été licenciées en France la même année. Et on s'est rendu compte avec Paladin que si on prend en compte uniquement les licenciements économiques, ils sont beaucoup plus faibles que les licenciements tout court. Mais en même temps, moi, je pense que quand on compte dans le monde, enfin, dans le reste du monde, ça ne veut rien dire, licenciement économique. C'est une spécificité administrative française. Mais licenciement économique en France, il y en a eu 90 000. Licenciement tout court, il y en a eu 900 000. Donc tu vois, quand tu changes le chiffre que tu prends en compte, ça change absolument tout. Et moi, je pense qu'il faut prendre en compte les licenciements tout court, mais si on prend que les licenciements économiques, c'est plus la même histoire du tout. Et du coup, bon bref, c'était une discussion intéressante. Je note aussi que Jeff Grubb a fait un tweet. Jeff Grubb, qui est un journaliste très bien informé, il dit « Mais arrêtez d'appeler ça une crise ». Il dit « Stop calling it a video game crash ». Il dit donc, ça implique que c'est une sorte de mouvement incontrôlable du marché et que les personnes qui licencient n'ont pas le choix. En fait, c'est pas le cas. Aux États-Unis, par exemple, le marché a connu une croissance de 4% d'une année sur l'autre. Enfin, il dit ce qu'on dit depuis des semaines, en tout cas que moi je répète depuis quelques semaines parce que je trouve pas que ça soit une crise. Et Grubb dit la même chose. Alors lui, il dit « c'est du coup, ça met l'accent, il faut clairement dire que les managers ont fait le choix de licencier et qu'ils n'étaient pas du tout obligés. Et c'est bon, je ne sais pas s'ils n'étaient pas du tout obligés, mais à la base, l'idée que ce n'est pas une crise et qu'il ne faut pas l'appeler crise est partagée par Grubb. Évidemment, je suis bien conscient aussi du fait que bah, quand il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi dans une industrie qui n'a pas connu de licenciement ou pas autant les années précédentes ou sur une dizaine d'années avant ou même plus, bah, faut bien trouver un mot pour le décrire. Et oui, bah, crise, c'est le mot qui existe, mais le contexte est important. Et je suis content que Grubb, le lendemain de mon petit coup de gueule sur « mais c'est pas une crise », ils disent la même chose. Donc, ça m'a fait un peu plaisir que Grubb s'inspire de moi. Puis, entre parenthèses, je finis sur cette histoire de crise encore pour casser des idées ou pour... donner un autre coup de gueule sur les joueurs de jeux vidéo ou sur les exigences des vrais connaisseurs de jeux vidéo. Il y a Chrono Triggered, vous connaissez Chrono TK, qui, sur Twitter, qui... Merde, je me souviens. Oui, c'est Tanguy Toussaint, voilà. Qui a fait un petit billet d'humeur sur les numériques pour dire... vous êtes bien gentils à dire « Oh, on fait toujours la même, les mêmes choses, les mêmes jeux, on connaît les mêmes... c'est les mêmes trucs tout le temps, les développeurs, les éditeurs ne prennent aucun risque, machin. » Et ce qu'il dit, et qui est complètement vrai et qu'on a évoqué également ici, c'est « Mais les jeux qui sont pas des ressucés de... Alors, c'est toujours les Yakuza, les Assassin's Creed, les Call of Duty, bah, ils se vendent pas. » Alors, c'est un petit peu une généralité, parce que c'est pas vrai du tout. On a vu, par exemple, Helldivers, qui fonctionne très très bien, Balatro, qui en est à 500 000 ventes. 500 000 ventes ! 500 000 ! etc. Il y a plein d'exemples. Mais c'est vrai que des trucs comme Prince of Persia qu'on évoquait tout à l'heure, il a l'air d'avoir un peu fait un four, quoi. Et pourtant, c'est un jeu original d'un gros studio qui a fait un pari, avec une licence qui est ressuscitée, qui a un petit peu un facteur nostalgie, mais qui n'est pas hyper populaire, et il se vend pas. Et le jeu est excellent, original, intéressant, bien foutu, mais, et donc, comment, c'est là encore l'idée que ah bah, les investisseurs, c'est des gros méchants, machin, bah non, si tu veux, si tu joues la vie de ton studio, et ça se joue souvent à tous les niveaux, bah... il faut que tu aies aussi des trucs qui fonctionnent. Et les joueurs, alors c'est pas les critiques de jeux vidéo, les core gamers comme nous qui parlent de ça, qui vivent ça, qui respirent le jeu vidéo tous les jours, mais l'industrie en général du jeu vidéo, bah, elle fait des choix, et souvent les choix sont pas ceux qu'on pourrait imaginer dans la qualité des jeux les plus modestes. Donc, bon, il le mentionne et je suis d'accord. Et je crois que ça va être tout pour notre partie news. Comme d'habitude, on a fait plus long que je ne pensais. Je vais quand même vous rappeler que si vous appréciez l'émission, vous avez un truc que vous pouvez faire. Alors, plusieurs choses. Vous pouvez écouter l'émission et l'apprécier et vous dire « Ah, oh, Patrick, il est sympa quand même. » Non, il est sympa, c'est cool, mais... Oh, il a une manière tellement intéressante de traiter les sujets. Il a des angles tellement justes, tellement judicieux, des approches auxquelles je n'avais pas pensé jusqu'ici, qui m'ouvrent l'esprit, qui ouvrent mes horizons, qui ouvrent mes chakras. Et vous arrêtez là. C'est possible. Mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin dans l'appréciation de l'émission et mettre en action cette... Je donne déjà 500 euros par mois avec le Patreon... Super Laser Punch, me dit-on. Il n'y a pas de Patreon Super Laser Punch. Mais il y a un Patreon Rendez-vous Jeu. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans le soutien, on parlait tout à l'heure de soutenir des trucs qui sont de qualité. Eh bien, il n'y a pas de secret. Si on ne les soutient pas avec un petit peu d'argent à un moment, eh bien, les choses peuvent devenir compliquées. Donc, si vous appréciez, vous pouvez soutenir financièrement le Rendez-vous Jeu sur patreon.com/rdvjeu. L'adresse, vous la connaissez, elle est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes de créer un compte. Vous mettez votre numéro de carte bleue ou votre moyen de paiement, il y en a plein, et vous êtes simplement facturé à la fin du mois et vous avez des bonus comme les émissions sans pub, au hasard. Les émissions sans pub, vous avez aussi des contenus supplémentaires de temps en temps, les after-shows, les éditos, etc. Et puis surtout, surtout, vous avez la fierté, le plaisir, j'espère, de soutenir un créateur que vous appréciez. patreon.com/rdvjeu. Je merci à tous et à toutes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jika. J'ai envie.
Oui, bonjour.
J'ai envie de jouer à un roguelite dans lequel je serai une voiture. Est-ce que tu as quelque chose pour moi ?
Alors oui et non, parce que c'est pas vraiment un roguelite. Ah, pas tout à fait un roguelite. Okay. Donc on parle de Pacific Drive, j'imagine.
Oui, parle-nous de Pacific Drive, s'il te plaît. Je laisse FF7 ouais. Rebirth pour après, parce que j'y ai joué aussi. Donc,
Je vais quand même faire vite. Mais alors, Pacific Drive, c'est un jeu dont on avait entendu parler depuis pas mal de temps, parce qu'on le voyait régulièrement dans les conférences, il était présenté, trailer, jeu qui mise sur une ambiance assez intéressante, puisqu'on incarne un personnage qui se retrouve prisonnier d'une sorte de zone, ça s'appelle des zones d'exclusion, je crois, c'est dans aux États-Unis, c'est une très grande zone, qui est en fait un peu comme dans un stalker, qui est victime de phénomènes étranges qui pensent être liés à un accident radioactif ou nucléaire, on ne sait pas trop, mais des trucs très bizarres. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire, quand on voit le trailer, etc., que c'est un jeu d'horreur ou quoi, c'est pas vraiment un jeu d'horreur. C'est un jeu qui est rempli de mystères et d'ambiances un peu bizarres. Tu n'auras pas des zombies qui vont popper, tu n'auras pas des monstres comme ça, tu n'auras pas ça. Par contre, tu auras plein de phénomènes étranges que tu vas avoir du mal à analyser, tu vas essayer de comprendre. Notamment, par exemple, le fait que des fois, l'environnement bouge d'un seul coup, sans raison. Moi, il m'est arrivé, par exemple, à un moment donné, d'être en voiture et d'un coup de m'envoler, sans savoir pourquoi. C'est juste qu'en fait, le sol s'est mis à se soulever très fort avant de réatterrir. Et donc, du coup, ta bagnole est abîmée. Donc, au sein de cet environnement, tu dois faire une suite de missions qui vont te demander d'aller toujours plus loin, t'enfoncer plus loin dans la zone, le but ultime étant de sortir. Pour ça, en fait, tu fais ça uniquement en voiture, parce que c'est vraiment là que tu es en sécurité, on va dire. Mais ta voiture, forcément, elle est fragile. Elle doit être réparée, elle doit être entretenue, elle doit être améliorée, etc., etc. Alors, en fait, le côté roguelite qu'on pourrait croire, il vient du fait que, en fait, c'est pas un monde ouvert. On pourrait croire au début que c'est un monde ouvert, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que tu as une sorte de hub central qui est un garage où c'est là que tu vas faire toutes tes améliorations. Et tu vas déclencher ensuite des missions qui vont te téléporter dans une zone de plus en plus loin. Et en fait, donc, chaque zone est un petit monde ouvert en soi avec des objectifs. Et après, tu dois trouver un point d'extraction quand tu as fini ta mission pour revenir au garage, en fait. Donc, on passe son temps à faire des allers-retours, en fait. Mais on n'est pas à chaque fois, on est dans un niveau différent. Donc, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas du tout un roguelite, en fait. Donc, voilà. C'est un jeu que moi j'aime bien, vraiment bien. Mais c'est un jeu qui demande, je pense, un petit moment avant de rentrer dedans, avant de trouver en fait la qualité du truc, parce que c'est un jeu qui a le problème d'être il y a une barrière à l'entrée qui est quand même assez élevée, parce qu'il y a une interface qui est quand même bien chargée, avec extrêmement de au début t'es noyé dans des tutos, dans des systèmes à comprendre comment fonctionne ceci, cela, etc. C'est pas un jeu de survie, mais il y a quand même tous par moment les travers du jeu de survie qui vont demander d'aller crafter plein de trucs et d'essayer de comprendre, voilà, pour pouvoir réparer ta porte, il faut que tu ailles chercher telle matière et pour extraire telle matière, il faut que tu fabriques tel outil, etc. etc. Une fois que tu as assimilé ça, une fois que tu as assimilé comment le jeu fonctionne, c'est un jeu qui est vraiment intéressant parce qu'il délivre une ambiance qui est vraiment chouette. Et en plus, c'est un jeu en fait où l'histoire, ce qui va t'arriver, ça va souvent être, ce qu'on a pu appeler à un moment donné du gameplay émergent, c'est-à-dire que c'est toi qui vas te créer tes propres histoires, tes propres péripéties, et du coup, c'est de ça que tu vas te rappeler, en fait. Parce que chaque mission peut être différente, il peut t'arriver des galères assez dingues, et il y a un côté aussi très réaliste au début qui, encore une fois, peut être un peu décourageant, parce que un truc tout bête, au début tu t'en rends pas compte, mais donc tu montes dans ta voiture, pour démarrer la voiture faut enlever le frein à main, faut démarrer le contact, et ensuite on y va. Si jamais tu sors de ta voiture et que tu mets pas le frein à main, bah ta voiture elle peut se barrer et donc tu te retrouves avec ta voiture qui part n'importe où dans le fossé. Super, tu penses à ça. Si jamais tu sors, tu mets le frein à main mais que tu laisses le contact, et bah ça utilise de l'essence et après t'as plus d'essence, tu vois, pour repartir. Donc il y a vraiment plein de réflexes comme ça qu'on doit absolument apprendre, qui au début tu te fais avoir et du coup tu recommences parce que t'as oublié ceci, t'as oublié cela. Mais vraiment, c'est globalement ce qui ressort de tout ce qu'on a dit à la presse. C'est un jeu qui se mérite un peu, mais une fois que tu as fait l'effort de persévérer, c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment un jeu qui a une super ambiance, qui a des super idées. Voilà. Il y a une narration qui est assez simple, enfin assez simple, dans le sens où tu entends. En fait, c'est un peu comme dans Firewatch, tu interagis avec des PNJ à distance par la voix, donc c'est des scientifiques qui sont assis dans cette zone. Avec un avertissement, un petit bémol, donc c'est un jeu qui est en anglais sous-titré français, et la narration se fait exclusivement en fait pendant le gameplay, quand tu conduis, quand tu marches, etc. Donc si t'es pas un minimum fluente en anglais à l'audio, à l'écoute, et bah c'est compliqué de conduire, parce que la conduite déjà est pas facile, et en plus de lire le texte de ce que te raconte la personne, et surtout le scénario se déroule quasiment que comme ça. Donc il y a en plus ce petit côté-là qui est pas forcément qu'il faut avoir en tête. Alors si vous avez une compréhension orale de l'anglais parfaite, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'est important de le citer. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon jeu, mais c'est un jeu qui, comme tu dis souvent, que je conseillerais pas à tout le monde, quoi. Je conseille aux gens qui ont envie de se prendre la tête un peu au début avec un truc d'ambiance et qui est un peu exigeant, mais qui a vraiment des bonnes mécaniques et sans mauvais jeu de mots, qui fonctionne bien, quoi.
Mais du coup, pour préciser un peu le gameplay spécifiquement, c'est quoi? C'est que tu dois t'occuper de ta voiture et partir dans tes missions pour avoir des...
Voilà.
des trucs pour mieux, pour que ta voiture tourne mieux, pour que tu puisses aller plus loin.
Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est une mécanique comme ça d'amélioration de ta voiture et d'entretien. Et d'entretien de ta voiture. Alors, j'ai pas fini le jeu. Hein. J'ai fait quand même quelques heures et tout ça. Donc, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Mais en fait, c'est ça. C'est que ta voiture au début, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle une chiotte, quoi. Elle est complètement pétée. Elle a une roue en moins. Tu dois. En fait, au début, tu la trouves. C'est une épave. C'est quasiment une épave. En fait, tu comprends que la voiture fonctionne. Limite, et donc les gens qui sont avec toi par radio se rendent compte que c'est limite la seule voiture qu'ils ont vue fonctionnelle depuis 10 ans, quoi. Et petit à petit, en fait, effectivement, tu vas l'améliorer tout petit à petit. Et par contre, il faut vraiment avoir envie de passer du temps à chouchouter sa voiture. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça devient le personnage principal du jeu. C'est-à-dire qu'on s'y attache, on peut l'entretenir, on peut la nettoyer, on peut la customiser, c'est là que le jeu, je trouve, fonctionne bien. Avec quand même, encore une fois, cette barrière à l'entrée parce que interface compliquée, parce que beaucoup de systèmes à assimiler, quoi.
J'insiste sur la question du gameplay. Donc, tu es dans ta voiture, tu roules, tu arrives à un endroit où il peut y avoir des pièces, tu sors de la bagnole, et là, tu sors ton fusil à pompe et c'est un FPS ou tu vas juste rentrer le vieux Toby et trouver un boulon.
C'est plus un jeu de. Alors, j'irais jeu de survie dans le sens où tu dois survivre dans l'environnement dans lequel tu es. C'est-à-dire que tu vas avoir des intempéries, tu vas avoir des phénomènes inexpliqués, tu vas avoir des moments où tu te retrouves dans des zones radioactives et que si tu n'es pas dans ta voiture, tu meurs en quelques secondes. Tu vas avoir des sortes de drones que tu vas voir apparaître au loin, tu sais, des sortes de drones de surveillance. Il faut éviter de passer en dessous. Donc, c'est tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire que l'environnement de base, il est hostile. Voilà, il est hostile, mais il n'y a pas de combat dans le sens FPS du terme. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de choses comme ça. Mais d'accord. Par contre, l'environnement est globalement hostile et tu dois te démerder avec. Peut-être pour faire un rapprochement avec des trucs un peu connus, ça se rapproche presque en termes de gameplay des jeux des Mudrunner. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Mudrunner, un truc comme ça.
Oui.
C'est le jeu, tu sais, où tu vas être dans des environnements hyper compliqués avec de la neige, de la boue, etc. Tu vas devoir vraiment trouver comment t'en sortir, etc. Bah, il y a un peu de ça en fait dans le jeu, même si c'est pas Mudrunner, tu vois, c'est peut-être un peu moins réaliste entre guillemets, quoi. Mais il y a un peu de ça dans le gameplay, dans la sensation de danger que tu vas ressentir, la sensation de difficulté. Ça va venir de là en fait, ça va devenir de je dois aller à ce point-là, comment je fais pour y arriver sans éclater ma bagnole, sans mourir, etc. Quoi. Donc voilà. Okay. Donc c'est un jeu, enfin franchement, alors il y a énormément de jeux en ce moment, donc c'est compliqué, mais j'ai envie de continuer le jeu parce que t'as régulièrement des moments de presque d'étonnement, d'extase devant des environnements super beaux, devant une ambiance, devant des trucs qui t'arrivent auxquels tu t'attends pas. Enfin, c'est un jeu qui m'a surprise. Quoi.
Et la narration est intéressante aussi, tu veux dire?
Oui, alors en termes de narration, c'est assez. De ce que j'en ai vu là, c'est pas forcément le point fort du jeu, tu vois.
Parce que c'est plus ambiance.
D'ailleurs, moi, je suis pas très fan du ton. Les personnages avec qui tu interagissent, il y a une sorte de ton un peu faussement humoristique, faussement cool, tu vois, alors que tu es dans un environnement très, très compliqué, très sérieux. Je trouve qu'il y a une sorte de dichotomie entre la façon dont les personnages te parlent et la réalité dans laquelle tu es. Que je suis pas hyper fan de ce parti pris, mais voilà, mais c'est pas le truc qui va t'accrocher, quoi.
Pour le coup, c'est pas une dissonance, c'est pas vraiment une dissonance ludonarrative, c'est une dissonance narrativo-narrative. Un nouveau terme.
Ouais, c'est presque ça. Ouais, c'est ouais. Oui, on peut dire que c'est ça effectivement. Donc voilà, okay. Donc, vraiment une bonne surprise, mais un jeu qui encore une fois, il faut vraiment pas se focus sur la première heure de jeu. Enfin, je veux dire, si la première heure vous plaît pas. Bah, essayez de persévérer un petit peu pour faire. En fait, il y a un tuto qui est déjà très long. Ah oui, et dernière chose à savoir, hein, qui je trouve un peu dommage, il y a un système de sauvegarde qui est très particulier. Bah, pour le coup, c'est un peu comme un roguelike. Tu peux sauvegarder que quand tu reviens dans ton hub. C'est-à-dire que pendant toute la mission, tu ne peux pas sauvegarder. Donc ça veut dire que tu ne peux pas mettre en pause ta partie, quitter ton jeu et reprendre ta partie. Ouais. C'est d'où le principe de run un peu, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que ça se rapproche d'un roguelite. Et c'est vrai que ça peut être un peu contraignant quand t'as pas forcément le temps de faire une mission entière et que t'as juste 20 minutes devant toi. Voilà.
C'est marrant, je pensais à Outer Wilds, et on mentionne dans la chatroom Outer Wilds aussi, cette idée de maîtriser la voiture et de devoir, mettre le frein à main, couper le contact, tout ça, ça me fait penser un peu à ça.
Un petit peu, ouais, effectivement.
Tu as aussi joué à Apollo Justice Ace Attorney Trilogy.
Ouais, ça j'y ai joué pendant mes vacances parce que j'étais parti, j'y ai joué en mode portable parce que c'est vraiment le La série des Ace Attorney, c'est vraiment parfait pour une console portable. C'est une série qui est née évidemment sur Game Boy Advance en 2001 et qui est arrivée sur DS ensuite. Enfin voilà, c'est vraiment lié à ça. Alors, peut-être pour rappeler ce que c'est, les Ace Attorney, c'est les visual novels de chez Capcom. Bah ouais, mais c'est sympa de rappeler. Donc on est sur une espèce de mélange entre un jeu d'aventure et un visual novel, donc à la japonaise, c'est des jeux japonais. Donc la trilogie Phoenix Wright était originale, était ressortie il y a quelques années, voilà, sous forme d'une trilogie complète traduite en français, vraiment en HD, etc. Donc je suis super. Et là c'est l'autre trilogie où tu incarnes en partie Apollo, qui est un autre jeune avocat. Donc c'est un peu, c'est une suite sans être une suite, quoi. C'est pas lié directement au précédent, mais tu vas retrouver quand même des personnages, etc. Et moi j'ai toujours adoré les Phoenix Wright, hein. C'est des jeux que j'avais connus sur ma première DS, etc. Et ça a été un vrai coup de cœur à l'époque, parce que c'était traduit en français, et c'était super bien traduit en français. Et en fait, donc c'est un jeu où tu incarnes un avocat de la défense. Tu dois toujours défendre des cas souvent indéfendables où tu te dis c'est pas possible, comment veux-tu que je prouve que ce gars est innocent, mais en fait il l'est, parce qu'il est toujours le principe, c'est que la personne que tu défends est toujours innocente. Et donc tu dois effectivement, la phase principale de jeu, c'est le procès, où tu vas devoir, avec les indices que tu as récoltés auparavant dans des phases de recherche, montrer des contradictions des témoins et de l'accusé, enfin pas l'accusé, mais plutôt du témoin quoi, et du procureur. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu de réflexion, d'enquête et d'aventure qui peut être un peu compliqué des fois, parce que voilà, des fois tu te prends la tête, parce que c'est très, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est extrêmement tiré. Enfin, je sais pas si t'as joué toi à Ace Attorney.
J'ai fait le premier cas du premier genre trois fois, et à chaque fois je me suis dit bon, c'est pas pour moi, pour rester.
C'est pas pour toi, c'est vrai. Ouais. Et parce qu'il faut dire un truc, c'est que là on le voit dans le trailer, c'est, si vous cherchez un truc réaliste et sérieux, évidemment c'est pas du tout là qu'il faut aller, parce que c'est complètement délirant.
Pas de practice,
c'est bourré de personnages hyper truculents. Et là, dans cette trilogie, c'est encore plus le cas que d'habitude, parce que c'est juste, enfin c'est drôle, c'est hyper drôle. Moi, je trouve ça génial. Enfin, il y a vraiment des personnages qui sont super. En plus, les personnages que tu rencontres ont toujours un gimmick, une sorte de signature move, tu vois, pendant que tu leur parles, un truc un peu débile. Genre, t'en as un, c'est un vendeur de ramen, et, enfin, c'est un gars qui fait des ramen, et régulièrement quand tu lui parles, il se met à jouer de l'harmonica, tu sais pas pourquoi. C'est absurde, c'est très absurde, et en plus je trouve que l'humour avec la traduction française est très bien retranscrit, avec des jeux de mots, des trucs qui sont durs à traduire. Par exemple, je reprends l'exemple de ce fameux vendeur de ramen, son nom de famille c'est Eldoun, donc je me dis ok, au début je comprenais pas, et en fait quand tu lis à l'envers Eldoun, ça fait noodle, donc c'est tout bête en fait, mais étant donné que c'est le vendeur de ramen, et en plus à la place des cheveux il a des nouilles, enfin bon bref, c'est débile, c'est vraiment débile.
Je vends super bien.
Oui, il faut le voir pour comprendre. Donc en fait, si vous n'avez jamais fait les Ace Attorney, je conseille évidemment de commencer d'abord par la trilogie Phoenix Wright originale, qui est disponible encore une fois sur Switch, sur PC, n'importe où, en français, voilà, super super bien traduit. Et ensuite, vous pouvez faire cette deuxième trilogie, qui est tout aussi chouette, avec pas mal de nouveautés en plus en termes de gameplay, des petits trucs plus de où tu vas devoir fouiller pour creuser pour chercher des indices, observer des objets sous toutes les coutures, etc. Donc voilà. Après, aussi, bien sûr, je le rappelle, pour le côté visual novel, c'est des jeux où ça blablate énormément. C'est 70% de ton temps, c'est de la lecture, quoi. Donc voilà.
Mais moi, j'aime beaucoup.
Oui, voilà. Peut-être pour celles et ceux qui ont jamais joué à un visual novel. Alors, c'est des visual novels où il y a quand même du gameplay, hein, par rapport à d'autres visual novels où tu fais que la lecture. Là, t'es quand même impliqué, quoi. Donc voilà. Donc c'est super, et ça t'ornie. Moi, j'aime beaucoup. Et Apollo Justice, c'est vraiment hyper drôle, et c'est vraiment le jeu que je joue, voilà, sur ma portable, parce que contrairement à Phoenix, oula,
vous l'avez entendu, oui, alors
ouais, l'objection,
on l'a entendu. Objection. C'est de là que ça vient, voilà. Le objection.
Bien sûr, mais c'est une machine à même et ça tourne, et voilà. Et contrairement à Pacific Drive, tu peux sauvegarder quand tu veux, tu peux faire pause, tu peux, voilà. Donc c'est très facile. C'est un jeu qui est facile d'accès, dans le sens où tu peux y jouer 10 minutes et reprendre ta partie après, il y a aucun problème, quoi.
D'accord. Objection. Voilà.
Voilà.
Très bien. Donc, c'était Ace Attorney, Apollo. Donc, c'est la deuxième trilogie. Hein, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, il y en a deux. Et ça, c'est la deuxième. Le moment est venu, du coup, de parler de Final Fantasy VII Rebirth. On en a déjà parlé, hein, à différentes reprises ces dernières semaines, puisque très confiant Square a donné le jeu aux testeurs très en avance. Et Kevin Moguri nous a fait l'amitié de venir en parler avec, avec Kassim il y a deux semaines. On en a parlé un petit peu la semaine dernière aussi. Et aujourd'hui, donc, bah, on a eu l'occasion de mettre les mains dessus. Donc, on peut en parler, nous également. On ne va pas tout refaire. Tout le monde parle de Final Fantasy VII Rebirth. C'est un petit peu le GOTY garanti, là, vu l'état de ce qui est sorti et de ce qui est prévu, donc du calendrier. Beaucoup de gens pensent que ça risque d'être le GOTY. Il fait suite au remake qui était donc, qui couvrait la première partie, le premier tiers, en vrai dire même pas, la première partie de Final Fantasy VII, uniquement dans Midgar, mais surtout qui était un jeu très dirigé. On était vraiment dans un couloir, dans une série de couloirs. On n'avait pas du tout le choix de là où on allait aller et de ce qu'on allait faire. Très, très peu. Eh bien, le Rebirth, sa caractéristique principale est sans doute le fait qu'il nous amène dans l'open world de Final Fantasy VII et il retranscrit donc cette sensation d'ouverture, d'exploration du monde de Final Fantasy. De manière très réussie, selon les personnes qui ont passé beaucoup de temps. Et du coup, je suis curieux de savoir, bah, d'une part, combien de temps tu y as joué peut-être, J.K., et ce que toi, tu en penses ?
Bah, là, je suis honnêtement, j'ai pareil, hein, c'est difficile d'avoir un avis définitif, parce qu'en plus, forcément, on attend tous de savoir comment ça va finir, le scénario. Voilà, je suis à 10 heures de jeu, à peu près, un peu plus de 10 heures. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que moi, donc, j'avais déjà beaucoup aimé le remake. Je rappelle aussi, je le dis souvent, mais je rappelle que moi, je n'ai pas joué au FF7 original. Donc, je n'ai pas un affect particulier sur le jeu d'origine. Mais du coup, je suis complètement tombé dans cet univers et vraiment, j'en suis tombé amoureux. Et c'est vrai que là, il joue la carte de l'open world, on va dire, qui est divisé en régions, mais c'est quand même des mondes ouverts avec beaucoup d'activités annexes. Ça me faisait un peu peur parce que passer d'un jeu finalement assez linéaire, assez condensé dans le remake où tu étais à Midgard à quelque chose de beaucoup plus ouvert, je me demandais comment ils vont faire. Ils y arrivent plutôt bien. Je trouve que tous les à côté fonctionnent, enfin pas tous, mais la plupart des à côté fonctionnent bien, même si au début tu es un peu noyé dans tous les à côté où on t'explique plein de trucs, les missions de reconnaissance, les missions avec les tours, les missions machin. Bon, mais une fois que tout ça est passé, ça roule et surtout tu fais un peu à la carte. C'est assez rare qu'on t'oblige à faire quelque chose d'annexe pour pouvoir progresser en histoire, donc ça c'est très appréciable. Après, ce qui est moins réussi, je trouve, on finit par s'y faire, mais juste la navigation physique dans le monde, par moment, elle est un peu frustrante. C'est-à-dire que ils ont un système de parcours où tu vas laisser appuyer sur rond pour sauter, descendre. Bah, des fois, ça accroche un peu, c'est pas très fluide. Tu tombes sans vouloir, tu descends sans vouloir monter. Tu descends, on pourra descendre, etc. T'as aussi régulièrement des phases où tu dois grimper à la Assassin's Creed ou à la Uncharted des falaises. Bah là, c'est pareil, tu vois, la grimpette, elle est pas très fluide, elle est pas très rapide. Des fois, le personnage n'arrive pas à grimper. Pourquoi ? Parce que t'as mal orienté ta caméra. Donc c'est des petits trucs un peu énervants. Après, bon, tu te dis c'est pas un Assassin's Creed, c'est pas un Uncharted, c'est un JRPG. Donc c'est pas pour ça que t'es là, quoi. Mais je trouve qu'ils auraient pu un peu plus fluidifier tout ça, parce que régulièrement, bah, t'as petites accroches dans ta navigation, dans ta façon de naviguer dans le monde. Heureusement, t'as des points de téléportation qui sont assez accessibles, etc., quoi. Donc voilà. Après, ce qui faisait la force du précédent est toujours là, et encore mieux, le système de combat, j'adore le système de combat. Enfin, je trouve que ce mélange de temps réel et de pause active où tu dois, où tu peux faire plein d'actions, le système d'action synchronisé avec les personnages marche super bien, c'est toujours ultra épique en termes de mise en scène, c'est top. Accompagné avec une musique déjà FF7 Remake, c'était une musique absolument magnifique, là c'est pareil.
Et puis il y a des ajouts sympathiques avec les actions à deux qui font que les moments qui cassent sont synchronisés, ouais. Les actions synchronisées qui cassent un petit peu les moments où tu vas juste continuer à appuyer sur le bouton 1000 fois et puis faire une petite pause pour utiliser tes barres d'ATB. Ça change un tout petit peu le rythme des combats et c'est plutôt, ça fonctionne bien là aussi. C'est une amélioration qui transforme pas le gameplay, mais qui l'améliore suffisamment pour le rendre plus, plus agréable, ouais. Plus attrayant, ouais, que dans le premier.
Ouais. Ouais, et il y a aussi le système de, par exemple, quand tu es contre un boss et que tu commences à vraiment être en galère, tu as la possibilité de faire appel à... parce qu'en gros tu choisis une équipe de 3 personnages et vous êtes toujours 5. Donc, tu as toujours 2 qui sont en arrière, qui ne combattent pas. Mais sauf que dans ces moments-là où tu es vraiment en galère, tu peux faire appel à un personnage qui n'est pas dans ton équipe pour qu'il t'aide avec des actions synchronisées. Donc, ça te permet aussi de... tout ça aboutit à des moments, notamment dans les boss, ou des combats où tu t'en sors toujours vraiment à la dernière seconde, quand il te reste quasiment plus rien, que tu t'es sur le point de crever et que t'as réussi, tu pars vraiment dans un effort désespéré, tu fais une dernière action et que c'est suffisant. Ça donne un truc hyper, hyper galvanisant, en fait, dans les combats. Enfin, là-dessus, c'est ultra réussi, quoi. Donc, voilà. Et puis, tout bêtement, moi, je pensais pas, tu vois, parce que j'ai jamais été un énorme fan de JRPG en termes de narration et tout. Là, t'es pris dans l'histoire dès le début. Alors, forcément, il faut avoir fait le remake d'avant pour avoir l'attachement émotionnel au personnage, etc. Notamment tout le début où Sephiroth est pas mal impliqué, on va dire. C'est super. Enfin, t'es pris dedans, quoi. Et t'as vraiment envie de pousser le truc pour savoir ce qui va se passer, comment ça va évoluer, comment les événements très marquants du premier jeu vont être, vont être gérés dans cet épisode-là. Ça, je sais pas.
Tu veux dire de celui de 97? Donc tu connais quand tu l'as pas fait, mais tu sais un petit peu ce qui se passe.
Oui, je connais le spoiler principal. Bon, ouais. Maintenant, je pense que tout le monde le connaît, je vais pas le dire, mais bon, tout le monde le connaît. Et je sais que le jeu va prendre ça en compte. Et est-ce qu'il va se passer la même chose ou pas? Donc voilà. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Et. Malgré des petits défauts techniques, notamment aussi, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de gens qui se plaignent de la qualité du mode performance sur PS5, donc tu joues à 60 FPS, mais le rendu est assez flou, donc ils sont en train de bosser là-dessus pour qu'il y ait un upscale, pour que ce soit un peu plus agréable. Moi, le mode, par exemple, le mode fidélité, donc je sur ma télé, il est quasiment injouable, il est hyper, il rame, il y a du tearing, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas, il y a un truc. Alors, je ne sais pas si c'est ma télé ou c'est... Donc voilà, du coup, je joue en mode performance. Le jeu est quand même très beau par moment. Il y a des beaux paysages, les plaines de la prairie au début, les plaines de Junon, enfin c'est très beau, hein. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus un peu plus peaufiné sur certains points là-dessus. Mais sinon c'est super, vraiment super.
Alors moi je suis encore dans la première zone, je veux dire dès qu'on sort de la première ville, on sort de Calm, et j'ai commencé vraiment à explorer. J'ai pu retourner à Calm, donc pour vous donner un petit peu une idée, ça doit faire, je sais pas, 5 heures, de un petit peu plus parce que j'avais fait la démo, 5 heures de jeu à peu près, et je dois dire que le début était un petit peu... Mais un peu inquiété, pas inquiété, mais le début était un peu pénible, j'ai trouvé, parce que j'ai fait la démo, et la démo, c'est le premier chapitre. Et j'ai trouvé ça un petit peu poussif, la démo, c'était un petit peu sur le mode du remake, donc on avait un couloir, et puis il y avait à la limite, les passages de combat, ça allait, la narration, ça va, mais toute la deuxième partie de la démo, on est dans une situation où on est mal en point, et on avance à 2 à l'heure, et il y a un truc qui est hyper long, qui est beaucoup trop long, beaucoup trop lent, et en fait, quand tu commences la démo, ils te disent « vous pourrez passer la démo dans le jeu complet ». Je dis « ok, je l'ai fait, c'est bon ». Et dans le jeu complet, en fait, tu peux passer une partie du gameplay, qui représente, je sais pas, peut-être 50% de la démo, mais dans tout le reste, tu peux pas le passer. Donc j'ai dû me retaper tout ça, pour moi qui en plus pas beaucoup de temps pour jouer. J'aurais voulu faire beaucoup plus que ces 5 heures et j'ai pas pu. C'était vraiment frustrant. Et en plus, quand tu arrives dans la ville, il y a encore tous les trucs, alors c'est à la japonaise, des tutoriels, des machins, et je les ai faits parce que je veux pas rater un truc important sur la manière dont fonctionne le jeu. Je trouve ça laborieux. Maintenant, quand on finit par te laisser jouer, à chaque fois, je ne sais pas, peut-être 5 fois, tu dis « Ok, là, c'est bon, je vais pouvoir jouer. » Et le jeu te reprend la manette. Tu sais, il dit « Non, attends. On a encore des trucs à t'expliquer, on a encore des trucs à te montrer. » Ok, d'accord, très bien. Quand tu finis par avoir vraiment la manette dans les mains, au bout de, je ne sais pas, 2 heures de jeu, là, ça s'ouvre et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique. Alors, je me demandais, en fait, si ça fonctionnait chez les gens qui n'ont pas joué, qui n'ont pas le facteur nostalgie. Parce que, évidemment, moi, qui ai découvert le 7 en 97, tu vois, sur PlayStation, à un moment où les jeux vidéo, c'était autre chose, et qu'on avait ce truc qui a transformé le média, tu mets les 3 notes de la musique, Enfin, tu vois, tu es... Et je commence à pleurer, quoi. Même si j'ai pas je me souviens pas très bien du jeu, émotionnellement, il y a un truc qui résonne. Quand tu mets le... C'est... Ça parle à mon corps, genre c'est O-R-E en anglais, quoi, tu vois, ça parle à ce que je suis, à l'être qui s'est construit. Et donc, je me demandais si, sans cet aspect nostalgie, ça fonctionnait, et t'as l'air de dire que oui, ça te plaît vraiment, et le jeu est un jeu de qualité en soi, ah oui, même oui. Sans la nostalgie.
Et... Bah, je pense qu'une bonne histoire et des bons personnages, alors ils ont été développés, ils sont en traitement qu'un corps différent aujourd'hui, parce que voilà, forcément les méthodes d'écriture ont évolué, mais ça reste quand même des bons personnages. Et même si moi j'ai pas joué au FF7 original, j'ai toujours été, enfin j'ai bien sûr conscience de l'importance de ce jeu, tu vois, dans l'histoire du jeu vidéo, et que comment ça a été important pour notamment pour l'Europe, parce que c'est là qu'on a découvert le JRPG, etc. Donc alors, bah si, bah, c'est disons que c'est le premier JRPG de énormément de monde, tu peux
oui,
pas dire
bon,
le contraire.
Ça, d'accord.
Avant FF7, les JRPG, ça a un truc...
Bah, il y avait FF3 en Occident, qui ouais, était mais... la scène de l'opéra, ouais, bon bref.
C'est vraiment FF7 que ça a explosé.
Oui, je suis d'accord.
Donc en fait, j'ai quand même une forme de nostalgie, mais par rapport à ce que ça représente, par rapport à moi ce que j'ai vécu. Mais Chrono Trigger, c'est génial. Secret of Mana, c'est vrai que oui, mais c'est de l'action RPG, c'est encore un peu différent. Mais bon, bref, on n'est pas là pour débattre de ce qu'est un JRPG, sinon on en a pour deux heures. Donc, ça fonctionne très bien avec moi parce qu'aussi j'ai été comment dire. Quand j'ai joué à FF7 Remake en 2020, je ne m'attendais pas du tout, alors pas du tout à accrocher autant. Et justement, je suis complètement tombé amoureux de cette histoire, de cet univers, de ces personnages. Donc, du coup, bah, j'ai l'attachement que j'ai eu en jouant au Remake, tu vois.
Je comprends, ouais. Oui, il n'est jamais sorti FF6 en France, en Europe, mais il est sorti aux US et j'avais un adaptateur
en anglais,
US
ouais.
Et j'ai joué à Final Fantasy 3, qui s'appelait 3 aux US, qui était le 6 japonais comme ça. Mais bon, bref, oui, il y avait des JRPG, bref. Mais du coup, moi, quand je prends la manette, c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique, même dans la ville, quand on a plus de liberté. Qu'au début, dans la ville, il y a quelque chose de sympa. Et le jeu de cartes, par exemple, le Queen's Blood, moi, j'y ai joué, j'ai fait les plein de combats, alors que l'aventure m'appelait, tu vois. Et je me suis dit, oh, mais j'ai quand même envie de faire un petit peu de ça. Ça fonctionne, les personnages fonctionnent. J'ai toujours un problème avec Tifa et ses vêtements qui, on en parlait avec Eska et Marion, la dernière fois, moi, je trouve qu'elle a été faite... c'est pas qu'elle veut s'habiller comme ça. Tu vois, on me dit, ah, Patrick, c'est pas à toi de décider comment elle s'habille. Si Tifa était une personne qui voulait vraiment s'habiller comme ça ou faite par des femmes, ça serait une autre question. Moi, je pense qu'elle est faite par des mecs et ça me gêne, quoi. Je veux dire, elle est, je la trouve sexualisée. Bon, bref, peu importe. C'est Tifa, on la connaît. Mais déjà, dans la ville, ça fonctionne. Et puis, quand tu sors, enfin, au bout d'à peu près 18 heures de jeu, que tu sors... et que tu découvres l'environnement de Final Fantasy, peut-être qu'on te l'a tellement, on t'en a tellement privé au début du jeu que quand tu finis par y arriver, tu es d'autant plus émerveillé. Mais redécouvrir un Final Fantasy et tu te dis, ce jeu dans lequel j'ai été contraint dans des couloirs pendant 20 heures déjà sur Remake, parce que je considère que c'est un petit peu le même jeu, bah maintenant je vais pouvoir juste explorer un monde ouvert. C'est magique. Et il est beau, ce monde ouvert. Donc, il y a l'effet monde ouvert qui est classique, qui fonctionne. Il est super beau, il est émerveillant. Et tu as les différents personnages qui font leurs petits commentaires et tu as l'idée que tu vas te balader en groupe de 5. Alors, tu disais, on est 5, mais au bout d'un moment, on est plus. Je me demande si... Parce qu'ils sont tous là, hein, les personnages. Avec toi, dans le monde, c'est pas que tu es uniquement le leader que tu vois dans le monde. Tout le monde te suit derrière. Et je me demande, du coup, si on est, je sais pas, 1, 2, 3, 4 en plus. Non, 3 en plus. Tout le monde va être avec toi tout le temps. Ça va être magique. Et donc, cet aspect monde ouvert fonctionne vraiment parce que c'est le monde de Final Fantasy. Alors, pour ceux qui connaissaient l'original, il y a ça qui joue, mais sans doute, même quand on a fait que le remake, ça joue aussi. Et oui, et les activités ont l'air sympas. Tout a envie de tout faire, je suis d'accord. J'ajouterais
un petit... Enfin, c'est même pas un bémol. C'est que c'est vraiment un monde ouvert as monde ouvert, quoi. C'est un open world as open world. C'est, vous savez, j'aime souvent dire que, ou je ne sais pas si je le dis souvent, mais je le pense souvent, il y a quelques grandes tendances dans le jeu vidéo, quelques grosses influences. Il y a les Souls-like, d'une part, qui ont influencé le gameplay d'une énorme partie de l'industrie. Et il y a, évidemment, Assassin's Creed et les open world à la Ubisoft. Eh bien, de ce que j'en ai vu, en tout cas, Final Fantasy Rebirth, c'est un open world. Quand j'en entendais parler, je me disais « Ah, ils ont quand même adapté, ils ont quand même... Oui, il y a les tours, mais c'est... » Non ! C'est un open world 100% Ubisoft, quoi. C'est méga... Alors, peut-être que ça change après, hein, c'est possible, mais c'est méga classique open world, ce qui me convient. Mais je trouve ça marrant, la manière dont les gens l'excusent visiblement beaucoup, l'excusent ou s'en plaignent moins... Parce qu'il y a tout l'enrobage Final Fantasy sans doute, et Final Fantasy VII en particulier, alors que n'importe quel autre jeu sortirait un open world de ce type, tu vois, tout le monde dirait « Ah mais écoute, c'est bon, Ubisoft, les icônes partout sur la carte, l'arbre de Noël, vous n'avez pas un petit peu d'inventivité dans votre tête, les développeurs bon. » Bref, ici, personne dit ça.
C'est pour ça qu'on lui pardonne. C'est ce que je disais pour la prise en main quand tu navigues dans le monde. C'est un JRPG quand même, tu vois. C'est un JRPG avec un monde ouvert, mais il y a d'autres qualités à côté, tu vois, qui font que bon bah ce côté open world très classique, on s'en accommode très bien finalement, tu vois, on s'en plaint pas.
Et puis à vrai dire, bon, je dis ça parce que faire des pics à certains, mais oui, moi je suis d'accord, tout fonctionne. Le transport en chocobo, enfin. T'as qu'une hâte, c'est de pouvoir monter sur ton chocobo pour te balader dans ce monde ouvert, quoi. Et même les balades en chocobo, tu as des petits moments où ils te proposent de faire des trucs avec ton chocobo qui sont sympas et qui sont cohérents. Et au-delà du monde ouvert, tiens, il y a un truc qui est marrant, il y a certains éléments de Ghost of Tsushima, par exemple, la manière dont, pas la narration, mais les activités environnementales vont t'attirer vers tel ou tel endroit, c'est très inspiré de Ghost of Tsushima, ce qui est intéressant, enfin, mais j'ai très hâte de continuer, c'est rare, en fait, que des jeux de ce type réussissent à t'intéresser au niveau du gameplay et de ta progression dans l'aventure, réussissent à t'intéresser à la fois à la quête principale, la narration qui va être la colonne vertébrale du jeu, et à toutes les activités annexes du monde ouvert. C'est rare qu'on réussisse à te tenir les deux. Alors là, j'ai que 5 heures. Hein, ça se trouve, au bout de 15, j'en aurai marre et il me restera 35 ou plus devant moi. Mais j'ai vraiment envie de faire le monde ouvert et la quête, et il y a une sorte de tiraillement entre les deux, et à chaque fois que je me dis, et je sais qu'il y a 1000 mini-jeux que j'ai envie de découvrir, parce que les deux que j'ai vus jusqu'à maintenant sont cool, j'ai envie de faire les deux, j'ai envie de faire les activités annexes, et j'ai envie de suivre l'histoire, donc rien que ça, je considère que c'est une réussite, et j'ai très hâte de voir où le jeu va m'emmener, quoi. En plus du fait que, oui, la nostalgie avec tous les persos, et un signe qui est très bon, c'est que je ne sais pas qui mettre dans mon équipe. Bon, je n'ai pas une adoration folle pour Barrett, mais entre Tifa, Aerith et Red 13, Red 13, je ne sais pas lesquels mettre. J'ai évidemment envie de faire le triangle amoureux, mais en même temps, Red, il a l'air cool. Et puis, je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, que je voudrais essayer aussi. C'est là aussi une réussite de se dire on veut tout ce que le buffet nous propose. Donc oui, pour le moment, je suis plutôt conquis par Final Fantasy VII Rebirth. Je suis content de l'avoir.
Moi, je suis Team Barrett jusqu'à l'heure.
Ah ouais, hein.
J'adore. Ouais, et puis, c'est un super personnage à distance, quoi. Quand t'as Tifa et Cloud qui se battent au corps à corps, bah, il en faut quand même un distance. Moi, j'ai toujours Barrett de base. Et donc, j'alterne entre Aerith. Moi, j'ai 13, je suis
non,
pas hyper fan.
Pas.
Donc, j'ai soit Aerith, soit Tifa dans mon équipe. Ça dépend.
D'accord. Bon, donc Final Fantasy VII Rebirth, ça sent plutôt bon pour la fin de l'année, je pense qu'on peut déjà le dire, mais en tout cas, le consensus est partagé. On partage le consensus.
Ouais, c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire, on verra ce que donnera le troisième, parce que arriver à faire un remake d'un jeu de 95 et d'en faire trois jeux qui seront peut-être trois excellents jeux, c'est du jamais vu, tu vois, enfin, c'est assez fou, quoi.
Ah bah.
Et je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'autres exemples plus tard, parce qu'il y a difficilement d'autres jeux aussi importants qui pourraient mériter un tel traitement, tu vois. Enfin, en tout cas, sous forme de trois jeux, tu vois.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi. L'autre aspect, effectivement, de cette sortie, là, on est en train de retenir son souffle pour voir ce que, comment, Reincarnation, ou je ne sais pas ce que sera la troisième partie.
Comment il s'appelle le troisième? Ils ont donné le nom du troisième, mais je ne me souviens plus.
Non, non, ils ne l'ont pas
si
donné.
Si on a dit, je crois.
Pardon?
Ah, je crois.
Non, non, okay. Ils ne l'ont pas donné, ils ne l'ont pas donné. Non, non, mais ça sera un gros reveal qui va faire 60 millions de vues sur YouTube.
Évidemment.
Mais oui, ce qu'ils sont en train de faire est exceptionnel. Enfin, franchement, tu aurais demandé à n'importe qui au monde qui connaît Final Fantasy VII, est-ce qu'il est possible de faire un remake de Final Fantasy VII? Tout le monde t'aurait dit, à la limite, si tu fais même chose avec un update graphique, peut-être.
Ouais.
Mais le transformer, et déjà avec le remake, avoir mettre tout le monde d'accord pour que tout le monde dise, au minimum, c'est un bon jeu, tu vois, et ce qu'il fait est intéressant, c'était déjà pas gagné. Vraiment. Et pourtant, c'était un jeu que le consensus était hyper bon dessus, alors que l'héritage du 7 est monumental. Je mets d'ailleurs dans la newsletter une vidéo qui explique l'histoire de la série, de la licence, avec tous les jeux et les produits qui ont été sortis, l'histoire du jeu, mais aussi tous les différents jeux et morceaux qui ont été sortis. Ça vous explique un petit peu l'impact de ce jeu-là. Elle est très très bien faite, la vidéo. Mais donc, avec l'héritage du jeu, c'était hyper compliqué de réussir un remake. Avec le 2, ils sont en train de réussir encore mieux qu'avec le 1. Enfin, le Rebirth, il est encore mieux que le remake. Si le 3e est au niveau du Rebirth, ça en fait une réussite éclatante et aucun autre jeu n'a jamais fait ça. Il n'y a aucun jeu... Alors, on va peut-être me faire mentir en parlant d'un remake que j'ai oublié, mais aucun jeu n'a jamais fait ça. C'est pas comme ça que tu fais un remake. C'est, en plus, tu joues pas avec l'histoire du premier. Tu fais une sorte de méta-histoire un petit peu parallèle qui commente sur le premier, qui construit sur le premier, qui fait un truc en plus que tu comprends pas du tout si tu connais pas le premier et qui est intéressant quand même si tu connais pas le premier. Enfin, on n'a jamais vu ça dans un jeu vidéo.
Moi, tu vois, typiquement, quand j'ai fini FF7 Remake, j'avais beaucoup de questions. Et j'en ai parlé à des gens qui connaissaient le jeu, qui m'ont expliqué des trucs. Et c'est vrai que dans ces moments-là, si tu connaissais pas le jeu d'origine, bah, t'es un peu obligé d'être renseigné parce que choses que tu captes pas, quoi.
Le truc que je dirais, c'est que c'est un petit peu le Dark Souls de la narration. Ils s'en foutent, ou Pacific Drive du remake. Ils s'en foutent que tu comprennes pas. Nous on a fait, on a le parti pris. Vous avez fait comprendre, tu vois. Il y a pas de, on va t'expliquer d'où ça vient, de quoi c'est, pourquoi c'est important, pourquoi non. C'est si tu connais très bien, sinon démerde-toi quoi. Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Bon, on va conclure du coup avec la dernière partie de l'émission, les news rapides. Et on va faire rapidement parce qu'il est tard. JK a quand même des trucs à faire.
On a 10 minutes, 15 minutes, allez.
Déception, c'est le mot que l'on entend le plus avec cet event preview de Dragon's Dogma 2. En tout cas, c'est celui que j'ai entendu. J'ai vu les vidéos notamment de Exerve, de Benoît et de Sky Marmotte. Et les deux sont... pas hyper convaincu par leur expérience, pas hyper convaincu.
Il y a d'autres sons de cloche quand même. Enfin, il y a Atomium, il a fait une vidéo où il était plutôt enthousiaste.
Atomium pourrait ne pas être enthousiaste avec un jeu super méga japonais? Est-ce que c'est possible?
Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et dans la presse anglo-saxonne, alors les anglo-saxons, ils ont plus tendance à s'emballer, mais dans la presse anglo-saxonne, j'ai lu quelques excellentes previews. Mais cela dit, ce que j'ai vu visuellement de chez Exerve, parce que comme toi, j'ai regardé les deux vidéos. En fait, surtout, t'as l'impression qu'ils ont fait un mauvais choix de preview, quoi. C'est ce qu'ils expliquaient, hein. Ils ont balancé les joueurs en plein milieu du jeu sans explication. Enfin, bon, bref, une zone qui était remplie d'ennemis où tu galérais. Donc, c'était pas très agréable. Mais je suis quand même curieux d'y jouer à ce jeu.
Oui, je pense que beaucoup de gens vont être curieux. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que à la fois chez Exerve et Sky Marmotte, on fait état de problèmes structurels du jeu. Confusion dans les combats, des quêtes qui sont plus qu'inintéressantes. Genre, y a, les deux parlent d'une quête qui les a marquées, où tu dois trouver des pierres bleues.
pour un type et les pierres bleues sont littéralement à 5 mètres, mais pas genre 5 mètres, tu dois marcher pendant 30 secondes. Littéralement devant lui, à 5 mètres de lui. Il y a des problèmes dans la structure du truc où tu es confronté à des ennemis qui sont beaucoup trop puissants pour toi et qui vont tuer tes pions. Qui sont... Enfin bref, y a des... on verra avec le jeu au final, mais ce dont ils font état, ce n'est pas que les conditions de preview qui étaient effectivement problématiques. Oui, ce n'est pas que ça. Benoît dit notamment qu'il espérait un jeu... Enfin, le premier est... un jeu culte, qui est devenu culte parce qu'il avait des bons côtés, et il n'avait pas connu le succès parce qu'il avait des très mauvais côtés qui étaient réels, et on les oublie un petit peu avec le temps et les bons souvenirs qui restent. Et lui, ce qu'il dit, c'est que, bah, en fait, c'est la même chose. Et donc, les mauvais côtés du jeu restent du premier. Ils n'ont pas amélioré, ils n'ont pas modernisé le truc. Donc, bon, on verra quand le jeu sera sorti, mais en tout cas, la preview est un peu problématique. Autre news, Apple a re-clôturé le compte de développeurs d'Epic qui comptait utiliser les règles du Digital Market Act en Europe pour lancer un store sur iOS. Donc il devait y avoir un Epic Game Store sur iOS avec notamment Fortnite qui reviendrait du coup sur iOS. Et dans un retournement inattendu, Apple a re-clôturé le compte d'Epic pour des raisons qui sont... On en parlera dans le rendez-vous tech, mais vraiment, c'est pas que c'est limite, c'est que c'est Apple qui a décidé, bon non, finalement, on veut pas. Pourquoi ? Bah, parce que vous avez pas été cool il y a quelque temps, et l'Union européenne est en train de regarder si c'est vraiment acceptable ou pas, mais c'est vraiment limite. On en parlera dans le rendez-vous tech. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura pas d'Epic Game Store là, a priori, pour le moment. Et Fortnite ne revient pas sur iOS.
Est-ce qu'on peut dire, Patrick, que c'est le moment de choisir sa team ? Team Sweeney, Team Cook.
Ah ah, c'est le moment de choisir son team.
Son team, ouais. Bah oui, mais du coup, ça marche moins bien. Bon.
Bah si, si.
J'ai voulu faire une. Ouais, son team, ouais, son team. Ouais.
C'est le moment de choisir son team.
Bah, ouais, allez.
Bon. Quoi d'autre ? Speedon, en fonction de comment vous aimez le prononcer, a levé 2 millions d'euros. Vous savez, c'est cet événement de speedrunning qui est notamment qui a été initié par Mr. MV et qui a eu lieu ce week-end. 2 millions d'euros levés. C'est un événement caritatif. C'est plutôt super cool, je trouve. Quoi d'autre ? Quelques news en vrac. T'as vu cette annonce de jeu open world survie Terminator ?
Oui, j'ai vu vite fait. Ouais. J'ai le sourcil levé, on va dire. parce que pourquoi pas ? Ça peut être un bon match pour le coup, un jeu de survie dans un univers comme ça. Ça peut être assez chouette. Et je sais que le jeu est un peu passé sous le radar et c'était payé des notes moyennes à l'époque. Mais le précédent jeu Terminator chez Nacon, qui c'est Terminator Resistance, c'est pas un mauvais jeu en fait. Il y a plein de trucs très réussis. Et en fait, il y avait les bases de ce qu'allait être ensuite Robocop Rock City, qui est par le même développeur, hein, Taeyeon, qui est un jeu que j'adore, hein, qui est un peu cheap sur plein de points, mais c'est pareil. Terminator, c'est pareil. Le Terminator Resistance, il était pareil. Mais je trouve que Nacon, on va voir ce qu'ils vont faire, mais j'ai l'impression qu'ils ont envie quand même de soigner la licence, donc ouais, je suis curieux.
Et vraiment, effectivement, le fait de survivre dans le monde post-éveil de Skynet, c'est complètement cohérent. Pourquoi personne n'y a pensé avant ? Bon, à voir ce que ça donnera.
C'est grave.
Persona, la franchise, a vendu plus de 22 millions de jeux. On est moins surpris qu'il fasse un DLC pour rendre le Persona 3 Reload complet. Princess Peach Showtime, il y a une démo qui a été publiée. J'ai oublié de dire tout à l'heure que je joue enfin à Mario Wonder avec mon fils. Je l'ai un petit peu forcé parce qu'il avait peur de tout. Moi, je lui ai dit « Écoute, moi, je veux jouer. Toi, tu fais ce que tu veux, tu peux me regarder. » Du coup, maintenant, il joue. Évidemment, il joue Yoshi, donc il est presque invincible. Mais maintenant, il joue. Et du coup, on va essayer de voir si Princess Peach Showtime pourra l'intéresser aussi. Il y a une démo qui est dispo. Et on parlait de Ghost of Tsushima. La version PC Director's Cut a été annoncée pour le 16 mai. Donc, si vous êtes sur PC et que vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à Ghost of Tsushima, vous pourrez y jouer le 16 mai. Il y a Forbidden West qui arrive bientôt. Ou qui est déjà arrivé, je ne sais plus. Ghost of Tsushima.
Non, il arrive bientôt, là. C'est fin du mois, je crois. Fin du mois, Forbidden West Horizon.
Ouais.
Vraiment, Ghost of Tsushima, je pense que c'est l'un de mes jeux préférés de ces dernières années. Ou le Japon, tout ça. Vous voyez, ça me... Et pour, je conclue en vous rappelant que dans la newsletter, il y aura des trucs très cool comme la vidéo sur l'histoire de Final Fantasy et un petit rapport sur Twitch en Corée du Sud avec la fermeture de Twitch en raison de la loi Sender Pays, qui fait un petit rapport sur la manière dont ça se passe là-bas, pourquoi ça se fait, la manière dont ça se passe pour les streamers en Corée du Sud, etc. Donc c'est assez intéressant. Newsletter, pour vous abonner, bah, y a le lien dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com, évidemment. Hacker, JK, où peut-on te retrouver sur Internet ?
J'étais pas prêt. Bah écoute, rien ne change. Hein. Depuis la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Toujours dans le podcast ZQSD, avec promis du nouveau contenu très bientôt. Voilà, on prévoit des interviews dès demain. J'enregistre une interview avec des gens très chouettes.
Je sais pas si je peux le dire. Tu ne peux pas dire le nom.
Non, je peux pas dire. C'est un rapport avec Citizen Sleeper, le jeu que j'adore, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Et voilà. Et puis un nouveau numéro, normalement qu'on enregistre la semaine prochaine aussi. Là, je m'engage sur des dates. Hein. J'espère que ça va se tenir, mais normalement, oui, c'est bon.
C'est risqué.
Normalement, c'est bon. Donc voilà. Et un petit tour et probablement un petit reportage au Pégase. Donc la Pégase, c'est la cérémonie de remise de prix du jeu vidéo qui a lieu ce soir, au moment où on enregistre. Et donc je vais y aller et je vais essayer de faire des interviews là-bas, faire un petit truc. On va voir ce qu'on va en tirer. Peut-être que ça va. Ouais, on verra. Ça peut donner un truc sympa.
Très bien. Dis bonjour à l'industrie de ma part.
J'y manquerai pas.
Moi, c'est Note Patrick un petit peu partout. Vous pouvez aller dans les notes de l'émission pour avoir les liens vers tout ce que je fais ou sur notepatrick.com également. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, à côté du Discord où des gens super cool passent beaucoup de temps à discuter de façon super cool, la newsletter également, les lives sur Twitch, jeudi c'est le rendez-vous jeu et mardi c'est le rendez-vous tech à midi, et bien
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.